La petite intro de Salman.
La petite intro. Non, tu vas voir, la petite intro, c'est très impressionnant, Wax.
Let's go.
T'inquiète pas, hein, tout va bien.
Ça se peut que t'aies les larmes aux yeux.
C'est impressionnant.
Je vais voir un truc.
De quoi?
Je vais le voir.
Bah, tu vas voir Salman faire des petites acrobaties vertes.
Ah oui, d'accord, ok, wow.
C'est une grosse connerie, en fait, c'est une intro de merde, mais... Ok, c'est parti.
D'accord, vas-y.
Dans le tempo, épisode 6, c'est parti.
Yes.
Voilà, t'as vu comme c'était impressionnant.
Impressionnant. Wow. Ne faites pas ça chez vous, les amis.
Dingue.
Vous êtes dans le tempo, on est de retour. Déjà le sixième épisode.
Ça va vite, hein.
Michel, tu te rends compte, ça fait six mois.
Six épisodes.
Est-ce que tu veux qu'on dresse un bilan là? Tu vois, on fait un épisode bilan.
Ouais, on peut faire un petit bilan à la fin.
Non, en vrai, ça fait un peu comme les mecs qui veulent écrire leur biographie alors que tu sais, ils ont 19 ans. Je crois que c'est un peu tôt.
Il y a des gens qui ont beaucoup vécu à 19 ans.
Oui, peut-être, c'est vrai. Écoute, mais nous, on a beaucoup vécu. On pourrait déjà faire une rétrospective.
Ouais, six épisodes.
En tout cas, vous l'avez reconnu, évidemment. Je suis avec l'illustre chronomusique Michel pour les intimes.
Excuse-moi.
C'était bien le battle des beatmakers là, que vous avez fait avec Pandrez.
Ah, on s'est bien amusé. C'était tout simplement légendaire. Jeudi passé, aux alentours de 21h.
Ouais.
C'est légendaire. C'était archi cool. Alors, le truc était incroyable. Donc, pour t'expliquer, Wax, on a fait un petit concours de beatmakers avec Pandrez. On était en live tous les deux. Donc, on a fait un live de sélection. On a sélectionné une équipe de 16 chacun. Et puis après, on faisait juste des battles et le public votait. Les beatmakers envoyaient leurs beats. Le public vote pour le plus chaud. Élimination, carte
trop cool,
demi-finale, tout ça. Je trouve
c'est
ça archi cool.
Principe. Tu vois, moi, j'ai maté le live, je me suis abonné au Spotify de plusieurs mecs, tu vois, je me suis... Enfin, c'est cool, parce que ça met en avant des types qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir comme ça une audience importante. Et puis, ouais, non, c'est... Et surtout, ça motive à faire du son.
Ah, moi, ça m'a motivé de ouf.
Après ça, t'as trop envie de faire des prods.
Ah, ouais.
Ah, la petite idée, là, c'était cool, tu vois.
Ouais, voilà. Puis, il y a un côté aussi giga branlette. Qui fait archi plaise, quoi, tu vois. Genre, c'est comme des battles de solo de guitare ou j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté, genre, allez, vas-y, là, on se branle, tu vois. Et de temps en temps, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, vous avez reconnu notre invité, Waxx.
Ouais, Waxx.
Oui.
Ça va ou quoi?
Ça va super, écoute.
Je te fais la petite présentation vite fait. Donc, t'es avant tout guitariste, tu te fais connaître du grand public avec le comité des reprises avec PV Nova dans lequel tu recevais des artistes et vous faisiez des reprises avec eux. Mais donc avant ça, t'étais sur un disque de Vice Law du Science Pack Crew. Donc t'avais déjà un peu dans le rap, t'avais un groupe de folk aussi. Now Solo et Wax, c'est ça?
Now Solo et Wax, ouais.
Et puis avant, tu travaillais déjà sur la production d'albums pour d'autres artistes et d'ailleurs tu continues, il me semble.
Ouais, exactement.
T'as taffé avec les Elogies, t'as taffé avec Pomme sur ces dernières années, tu fais de la scène, t'as tourné avec les Winkles. En 2019, t'as sorti ton premier album solo. Et du coup, tu es un artiste complet et très polyvalent. Et c'est pour ça qu'on voulait t'avoir avec nous dans ce podcast, dans le tempo, sponsor par Thoman et Sotoman.
Et Sotoman, ouais.
En fait, il fallait que pour sixième épisode, on voulait un peu marquer le coup. Et on a décidé de s'attaquer à une thématique passionnante et surtout essentielle à notre avis, qui est la question comment gérer nos multiples influences musicales. En fait, on est tous marqués par des styles parfois anciens. Et c'est pas toujours évident d'intégrer cet héritage à des sonorités plus actuelles. Et on s'est dit que tu étais la bonne personne, Wax, pour discuter un peu de ça, parce que chaque époque, chaque genre, chaque scène a ses codes. Il n'est pas toujours facile de les appréhender, de réussir à démélanger, etc. Et toi, notamment à travers ton profil, on ne va pas se le cacher, on va parler beaucoup de rock et de rap dans cette émission.
C'est cool.
C'est quand même assez ta marque de fabrique, ça. Tu vois, moi, je te vois un peu comme une forme de passeur musical qui s'illustre voilà, dans le rock, dans le rap, dans la pop, comme l'a dit Michel, avec par exemple Pomme. Est-ce que ce sujet te parle, tu vois, des influences comme ça, et j'imagine que c'est au cœur de ta pratique presque, j'ai l'impression, tu vois, musicale.
Ouais, clairement, pendant longtemps, je me suis demandé, parce que moi, en fait, quand j'étais jeune, petit, j'écoutais que du rap FR. J'aimais pas le rap américain, je comprenais pas ce qu'il disait, ça me rendait ouf. Et mes parents, eux, écoutaient vachement de folk et vachement de rock, et pour eux, enfin, pour mon père notamment, c'était une libération parce que lui, il venait d'Istanbul et il n'y avait pas beaucoup de disquaires là-bas, il n'y avait pas d'accès à plein de trucs. Et quand il arrivait en France, c'était un peu comme s'il était arrivé aux États-Unis d'une certaine manière, parce que il avait accès justement à plein d'imports US. Donc voilà, ouais, donc j'ai baigné avec mon enfance avec Neil Young et plein de d'icônes rock comme ça. Et moi j'avoue que j'étais à fond dans le rap, vraiment NTM, IAM, enfin même Doc Gynéco, enfin tout ce qu'il y avait à cette époque-là, tu vois. J'écoutais à fond. Mais j'étais vraiment tout petit quoi. Et en fait c'est un cousin à moi qui m'a fait écouter du métal dans un deuxième temps. Et en fait je me suis fait un peu ma culture tout seul parce que mes parents n'écoutaient ni du rap ni du rock énervé, tu vois. Et j'avais des amis qui écoutaient globalement que du rap. Donc j'ai cherché pendant longtemps à savoir ce que je trouvais cool dans ce que j'écoutais et à trouver le lien entre tout ça. Surtout, en grandissant, je me suis rendu compte que mes goûts changeaient drastiquement aussi, qu'il y avait des choses qui m'intéressaient vachement plus, d'autres qui m'intéressaient vachement moins, et j'essayais de comprendre en fait. Et je pense que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, rétrospectivement, ce qui m'attire énormément dans la musique de tous ces gens que j'écoute encore aujourd'hui, et que parce que moi je suis quelqu'un qui écoute vraiment tout ce qui sort tout le temps. Je suis pas passéiste pour un sou. Et en fait je crois que c'est la jeunesse. C'est-à-dire que depuis que je suis petit en fait voir des mecs de 19 ans raconter leurs 19 premières années en un premier projet, ça me je trouve que c'est d'une richesse qui n'a pas son pareil. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'ai jamais de ma vie écouté de vieilles personnes. Tu vois, j'ai jamais écouté le 7e album d'un groupe. J'ai jamais écouté un artiste qui passait 45 ans, fait un album. Je crois qu'en fait, c'est pas que je suis pas la cible, mais c'est que je n'ai pas de. Je n'ai pas cette corde sensible-là. Moi, en fait, tout ce qui est à fleur de peau, authentique malgré soi, parce que quand on est hyper jeune, on peut pas être autre chose qu'authentique, tu vois, même si on peut dire après que tel produit est commercial, machin, etc. On va parler de plein d'artistes, je pense, aujourd'hui, tu vois, mais notamment, je sais qu'elle est très moquée au HDN, mais pour moi, comment tu veux enlever l'authenticité à une fille qui a 16 ans, en fait? C'est forcément pas réfléchi à 2000% comme des musiciens qui ont déjà 15 ans derrière eux de musique. Il y a quelque chose de très spontané en fait. Et cette spontanéité, alors je parlais de Weshden, mais c'est pas nécessairement ce que j'écoute du tout. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai entendu Kendrick Lamar, tu vois, je parle de Kendrick Lamar, mais je peux très bien te parler aussi de Kill 'Em All. Tu vois, on sent que c'est des jeunes musiciens, tu vois. Et c'est ça qui me fascine. C'est ce que j'ai aimé dans Incubus, c'est ce que j'aime dans les. Tu vois, Led Zeppelin, par exemple, le premier album, ils sont pas si jeunes que ça. Mais tu sens qu'en fait, ils ont eu plein d'expériences qui n'ont pas été forcément les meilleures expériences du monde. Et que d'un coup, ils se sont retrouvés ensemble à se dire, putain, on va pouvoir s'éclater là. Et ils ont, dans leur tête, ils ont 17 ans, quoi, quand ils font leur premier album. Et je crois que c'est ça le point commun de tout ce que j'aime.
Et la spontanéité, c'est pas un truc que toi tu retrouves, par exemple, c'est un truc que t'arrives pas à retrouver chez des artistes un peu plus vieux. Genre, moi, je pense à Philippe Catherine, tu vois, qui pour moi a vraiment un côté immature, on va dire, dans sa manière de concevoir la musique, j'ai l'impression.
Bah, en fait, le truc. Si, si. Ouais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, le truc, c'est que là, par exemple, tu parles d'un artiste que j'aime humainement très fort, parce que c'est devenu même un ami avec le temps, je n'écoute pas sa musique du tout, elle ne me touche pas. Et j'ai rien contre ni sa musique, ni les gens qui l'écoutent, au contraire, mais ça me... Ça, mais Philippe, là où c'est différent, c'est que c'est depuis son premier album que je suis pas la cible.
Ça me parle ce que tu racontes à propos de la jeunesse, parce que effectivement, Michel a parlé d'un. Il peut y avoir des artistes qui arrivent un peu plus sur le tard, ou même qui ont un grain de folie que l'on pourrait apparenter à la jeunesse, effectivement, même plus tard dans leur carrière. Et moi, c'est marrant, c'est pas tant le grain de folie, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, mais je crois que c'est vraiment c'est l'énergie de la jeunesse, en fait. C'est qu'il y a une énergie propre à la jeunesse et que tu ne peux pas continuer à garder avec le temps. C'est impossible. Alors tu peux développer d'autres qualités qui peuvent avoir un intérêt. Après, on est tous plus ou moins sensibles effectivement à ça. Mais il y a un truc, effectivement de et puis tu sais ouais la vivacité, le fait que qu'une scène est bouillonnante, qu'il y a des mecs qui se chauffent entre eux, que ça fait communauté, que c'est un truc que je dis.
Puis il y a un aspect aussi chez les plus anciens, moi c'est ça que j'apprécie le plus, parce que en gros je parle de ce que j'écoute au quotidien, mais sinon c'est vrai que tu vois par exemple les derniers albums de Johnny Cash, moi ils me bouleversent, tu vois, vraiment. C'est il est au seuil de la mort, il fait des albums avec Rick Rubin qui sont merveilleux et que je conseille à tout le monde d'écouter. Et il y a une interprétation que tu ne peux pas avoir quand tu es rookie, on va dire. Moi je suis très je fais toujours des jeux, des dans ma vie en général des trucs, des liens avec le basket, tu vois. Mais effectivement, c'est vrai que le Jordan des dernières années et des premières années, il y a des qualités, des défauts dans les deux, mais c'est vrai que tu peux pas enlever la maîtrise de la musique que tu peux avoir au bout de 15 ans d'expérience, etc. Mais c'est vrai que les duos que faisait à l'époque Johnny Cash avec Fiona Apple, qui était à l'époque assez jeune, c'est merveilleux d'entendre justement le mélange qu'il peut y avoir entre l'expérience d'un côté et de l'autre côté... le respect, tu l'entends dans la voix de Fiona Apple, le respect qu'elle a pour l'ancien, et le mélange des deux, il est formidable.
Les gars, ce que je vous propose, c'est donc c'était une forme d'introduction. On comprend un peu mieux maintenant ton profil, ouais, ce que tu aimes dans la musique. Tu nous parles de la jeunesse, etc. Essayons de diviser un peu la discussion en plusieurs parties. Commençons, si vous voulez bien, avec d'une certaine manière, j'avais intitulé ça un peu « Que reste-t-il du rock ?» C'est peut-être un peu provoque, mais une première partie dédiée un peu au rock et à son héritage. Toi, comment tu vis ça? Qu'est-ce qui reste de rock en toi? Comment tu insuffles ça, tu vois, un peu dans les différentes productions sur lesquelles tu bosses? Première question, par exemple, ouais. Est-ce que c'est un style encore vivant pour toi, le rock? Est-ce que tu écoutes des artistes rock encore aujourd'hui, des albums récents, pas, j'entends surtout, ou à l'inverse, que tu écoutes surtout des trucs anciens? Quel est ton rapport au rock d'aujourd'hui?
Bah alors moi c'est la musique en général, moi j'aimerais bien qu'on fasse un jour une mise à jour des styles musicaux, qu'on reprenne le truc, et alors moi je m'estime déjà trop vieux pour faire ça, je pense que c'est bien d'aider à faire ça, mais c'est pas à nous de le faire, c'est aux jeunes qui font la musique d'aujourd'hui de le faire, et parce que j'arrive pas à me retrouver, moi, dans les étiquettes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je les ai comprises quand j'étais petit. Elles m'ont aidé à me guider sur certains trucs. Mais il y a eu aucune mise à jour. Et aujourd'hui, le rock, je sais pas ce que c'est qu'aujourd'hui. Je sais pas ce que c'est que du rock, honnêtement. Et je vais te dire honnêtement, je sais pas ce que c'est que du rap non plus. C'est-à-dire que dans ce terme dégueulasse de musique urbaine, on met... Cypress Hill, PNL, Oxmo Puccino, Cobaladé. Enfin, il faut m'arrêter un moment parce que, en fait, tu sais, l'hégémonie de la culture blanche aux États-Unis a permis de scinder les styles pour mieux vendre la musique. Il y a eu un vrai travail de fait. Alors, Nirvana, c'est du grunge. Metallica, c'est du trash. Au début, c'était du trash. Après, c'est devenu le heavy metal, etc. T'as mille styles. T'as le grudge, le je sais pas quoi. Enfin, tu sais, des fois, il y a des noms que tu peux même pas retenir.
Oui, c'est terrible.
Et le rap, c'est trois lettres. C'est du rap. C'est-à-dire, t'es issu de l'immigration, peu importe le pays dans lequel t'es, tu fais de la musique, on dit que tu fais de l'urbain. Et ça, je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Ça devient immonde. Parce que vraiment, aujourd'hui, on voit que toutes les musiques issues du rock des années 90-2000 ont toutes leurs petites spécificités. On fait de l'indie, on fait du machin. Le rap, c'est du rap.
Ouais.
Et je crois que c'est les
acteurs de ce milieu-là aussi qui jouent dans ce truc-là. Je pense que les rappeurs se posent moins la question que ceux qui font de l'indie, tu vois. Je pense qu'un rappeur, que PNL ou Cobaladé ou Vald ou machin, pour eux, ils font du rap aussi, tu vois. Parce que pour eux, le rap, c'est large. Et je pense qu'ils s'en foutent. Et je pense qu'il y a un côté peut-être un peu plus branlette dans, par exemple, la scène rock, metal, etc. Nous, on fait de l'industrial, des scores, machin, nanani, nanana. Je pense que c'est une culture qui n'est pas dans le rap. La classification, tu vois.
Exactement. Alors, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça complètement. Par contre, il y a quelque chose qui, du coup, doit être fait quand même. C'est parce que ils veulent instaurer à chaque fois dans les festivals ou un peu partout des quotas. Moi qui ai joué avec beaucoup de rappeurs sur des scènes, festivals, des grosses tournées, etc. On se retrouve toujours à jouer avec des gens qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on fait. Tu verras jamais ça dans le rock. À chaque fois, tu vois, par exemple, le Hellfest, c'est très bien scindé. T'as tout ce qui est musique vraiment extrême nordique ici, t'as les punks là, etc. Tu vois. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas cette culture-là qui soit intégrée chez les programmateurs, chez beaucoup de gens, au final de la musique, je pense que ça dessert, même si ils peuvent s'en branler, tu sais, je pense que vraiment, Kurt Cobain, quand il a fait son premier album avec Sub Pop, je crois, quand il a fait Bleach, je pense qu'il s'en foutait de dans quel cadre on allait mettre son album. Est-ce qu'on allait le mettre dans la musique, genre dans le hard? Est-ce qu'on allait le mettre... C'est vrai que c'est une question faut pas se poser, en fait, quand t'es acteur du truc. Mais je pense que il faut accompagner à un moment quand même les gens à ça, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, moi, je passe ma vie à débattre avec des gens qui me disent, oh, la musique d'avant c'était mieux, etc. Et ça m'intéresse vraiment. Ce débat-là m'intéresse énormément parce qu'en fait, pour moi, ils ont évidemment tort. Mais je veux savoir pourquoi, en fait, ils aiment pas la musique d'aujourd'hui. Et la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la classification.
Je pense que je pense que même à partir du moment où on a posé ce constat-là, on peut se dire aussi que c'est. Je pense que dans la majorité des cas, ils n'ont pas envie de comprendre. Je pense que il y a à partir d'un certain moment, tu te définis à travers certaines postures que tu peux avoir, et je pense que pour ces gens-là, c'est plus important de se définir en disant, moi, je suis un résistant de la vraie musique, etc. Et ça participe à leur construire, vis-à-vis de leur propre vision d'eux-mêmes, un personnage stylé, plus que la musique, en vrai. Je pense que la
Ouais,
musique est
mais.
moins importante pour eux que l'image qu'ils se construisent en défendant la vraie musique, tu vois.
Alors, je suis d'accord avec toi. Je mettrais juste un bémol à ça. C'est que le travail qu'ont fourni les labels américains dans les années 2000 pour vendre le néo-métal au grand public a été un vrai travail de classification qui a fait que quand tu es allé à des concerts de, je sais pas, de P.O.D., de Korn ou que sais-je, tu avais des mecs qui normalement devraient être largués, qui avait 45 ans, qui allait au concert, avec des jeunes qu'on avait, je sais pas, 15, 16, parce qu'on leur avait bien expliqué que ce qu'ils écoutaient là, ils pouvaient pas forcément le comprendre avec des racines de groupes de trash ou de hard rock, etc., que c'était un nouveau style qui mélangeait des rythmiques, entre guillemets, rap, avec des mélodies pop et des riffs lourds, tu vois. Et à partir du moment où tu fais le travail de pas mettre de côté une partie de la population en disant, mais de toute façon, vous allez rien comprendre. C'est un truc, laisse tomber. C'est le nouveau rock. Le rock, c'est ça aujourd'hui. Tu vois? Et en fait, non, le rock, c'était pas ça. C'était le néo-métal. Tu vois ce que je veux dire? C'est une classification. Et moi, j'ai des potes qui écoutent du rap depuis 20 ans. Aujourd'hui, effectivement, ils se retrouvent pas. Quand je leur fais écouter Leto, ils se retrouvent pas au Ninho ou Dahuzi, tu vois. Parce qu'en fait, mais parce que eux, ce qu'ils aiment, c'est un truc qui n'est pas forcément un truc du passé, parce que je pourrais leur trouver des groupes qui aujourd'hui font la même chose. Et des fois, je leur dis, ah, t'aimes pas la musique d'aujourd'hui? Et je leur fais écouter, je sais pas, tu sais, un petit mec produit par Anderson .Paak, où il y a des rythmiques qui pourrait s'apparenter à des rythmiques des années 90. Or, c'est juste des shuffles, tu vois, qu'on a l'habitude d'entendre depuis 70 ans. Et là, ils font, ah, ça, j'aime. Et tu vois, et c'est là où je dis, putain, c'est dommage. S'il fallait payer un professeur à chacun d'entre eux pour leur faire découvrir des trucs, des machins, les classifications qui s'y retrouvent plus facilement que machin, là, tu vas sur Spotify, t'as rap, rock, et je suis là, waouh, on en est encore là, sérieusement? Donc, dans rock, il y a quoi? Il y a rock classique, tu vas dessus, il y a Lynyrd Skynyrd, AC/DC, Metallica, déjà c'est devenu un fourre-tout. Et en gros, ça veut dire classique qui ont été numéro 1 dans les années 70-80. Et dans rap, t'as punchliner, t'as machin, mais en fait, on sait plus, tu vois. Et donc, eux, ils sont du père, ils savent plus où aller, et je trouve qu'il y a, peut-être un truc pour accompagner les gens à ça.
C'est un débat très intéressant. C'est vrai que la classification musicale, elle n'a pas d'égal. C'est-à-dire que même dans le cinéma, dans la littérature, etc., où pourtant on cherche un peu comme ça à mettre des étiquettes pour comprendre, pour classifier, etc., dans la musique, c'est démesuré. On le voit, on comprend jamais tous les embranchements, notamment dans le métal, par exemple, c'est hallucinant. Et en même temps, alors je pense qu'il y a eu un intérêt notamment industriel, c'est vrai, économique, à travers toutes ces petites scènes comme ça, avec une communauté spécifique, etc. Et pour autant, quand on dit rock par exemple ou rap, il y a quand même, ça dégage quand même quelque chose, ça fait référence quand même. Il y a un héritage, il y a des codes qui nous parlent. Et donc multiplier les étiquettes, ça devient absurde. Et en même temps, il faut bien à des moments aussi qu'on puisse se retrouver autour, tu vois, d'une qualification commune. Parce que derrière, il y a quand même des choses, tu vois, que l'on perçoit et qui sont propres à un style, par exemple, ou à une scène particulière. Donc, est-ce que rock, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, rock, par exemple?
Pour moi, c'est ouais.
Non, j'allais te dire, j'avais vu une interview où t'étais avec Zwinkels, donc t'as tourné avec Zwinkels, mm-hmm. groupe de rap qui n'a cessé de clamer toute leur vie que c'était un groupe de rap et qui pourtant est sans cesse ramené à son identité rock aussi. Et tu disais justement, mais vous êtes un groupe de rock. Et pourquoi, par exemple, tu qualifiais Zwinkels de groupe de rock? Je pense, tu vois, que ça peut être une première approche. Qu'est-ce que tu entends derrière rock? Qu'est-ce qui peut être qualifié?
Pour moi, vraiment, le rock, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. Vraiment, pour moi, il n'y a pas grand-chose de musical dans le mot rock pour moi, en vrai, tu vois. Pour moi, les Zwinkels, c'est du punk. C'est même pas du rock, c'est du punk. Si on voulait vraiment faire une vraie classification, alors ça, c'est un débat qu'on a à chaque fois, où ils disent, putain, ça fait 20 ans qu'on dit qu'on veut faire du rap, et toi, t'arrives et tu nous dis qu'on fait du rock, t'es chiant. Et ils le disent à plein de gens, parce que plein de gens leur disent, moi, je répète juste ce que les gens disent, mais au bout d'un moment, je leur dis, oui, mais on a fait le Hellfest ensemble, tu vois, sur la grande scène. Et là, ils ont compris ce jour-là que, ouais, waouh, si c'est du rap, il va falloir qu'on mette un truc derrière. C'est du rap alternatif, c'est du rap quelque chose, mais tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, en vrai, c'est pour ça que je vous dis, c'est une attitude. C'est que, moi, par exemple, j'ai fait une grosse tournée avec Giorgio. Giorgio, pour moi, c'est un rocker. Dans la définition de ce qu'on peut dire d'un rocker, il coche toutes les cases.
Et ça, je le retrouve chez plein de gens.
On avait dit la même chose de Roméo Elvis, par exemple. Roméo Elvis, il y a énormément de darons rockers qui kiffaient parce qu'il disait, genre, lui, il a compris, machin, quand il le voyait sur scène. Quand il le voit sur scène, il voit un rocker.
En fait,
c'est ça, en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est plus une attitude qu'autre chose, plus qu'un style musical.
Mais c'est ça qui rend la classification compliquée. Moi, je te suis pas trop sur l'idée qu'il faille préciser les classifications aujourd'hui, parce que justement, j'ai l'impression que, en fait, si tu vas sur, tu parlais par exemple de Spotify, etc., moi, j'ai l'impression que c'est pas aussi dur que ça de s'y retrouver, parce que les algorithmes sont faits plus justement pour finir par te présenter des trucs qui ressemblent à des choses que t'aimes bien, etc., tu vois. Donc, je pense que la classification.
Ouais. Mais toi, tu pars pas de zéro.
Ouais, non, mais on avait déjà eu un peu cette discussion avec Salman et tout ça. Mais il suffit juste de laisser tourner des trucs. Tu likes les trucs que t'aimes bien. Et puis, au bout d'un moment, on te propose des trucs qui ressemblent à ce que t'aimes bien. Et t'as pas à te poser la question de si c'est du rap, si c'est du néo-rock, si c'est du machin et tout ça, tu vois. Pour moi, par exemple, à titre très individuel, et c'est une posture de vieux con, mais j'assume, tu vois. Pour moi, le rap, c'est quand tu rappes. C'est pas quand tu chantes. Un rappeur qui chante, c'est un chanteur. Tu peux rapper et tu peux chanter, mais rapper, c'est, je sais pas, c'est pas chanter.
Donc t'aimerais que avoir une scission entre guillemets entre la variété et le rap.
Non, je m'en fous, mais c'est juste moi mon truc à moi, tu vois. C'est juste pour moi le rap, c'est quand tu rappes, mais pour moi ça veut pas dire que Z ou Maes quand ils chantent etc. c'est pas des rappeurs. C'est moi, c'est juste mon opinion sur ce truc-là. Après, je mets une playlist rap. J'entends les types qui chantent, ça me va très bien. J'entends des types qui rappent, ça va très bien. Mais j'ai ma playlist où j'ai des kickers et j'ai ma playlist où ça chantonne. Mais ça me dérange pas que les deux s'appellent rap tant que moi j'ai ce que je veux en fait.
En fait, moi, tu sais, si je dis ça, c'est à la base, je m'en fous aussi. Tu vois, parce que je sais ce que j'écoute, je sais ce que j'aime, je sais mes habitudes, etc. Ce qui me dérange plus, c'est Et ça, c'est même pas que ça me dérange. Ce que j'aimerais, c'est faire des choses qui soient plus éducatif pour ceux qui justement s'en branlent pas et pensent savoir ce qui est bien ou pas bien. Et c'est plutôt dans ce sens-là. Tu vois, nous, je sais que, tu vois, à l'école, t'apprends des choses des fois qui sont chiantes, et puis des fois, il suffit qu'on t'explique bien un truc pour que, tu vois, par exemple, il y a un exemple tout bête, je sais plus c'est dans quoi que j'ai vu ça, ça m'avait fait rire de ouf. C'était, est-ce que tu savais que le 11 septembre, George Bush, il n'était pas au courant qu'il y avait eu les attentats, tu vois? Bah, à la limite, on s'en fout. Et ce jour-là, il avait la diarrhée. Et en fait, c'est faux. Il a jamais eu la diarrhée. Mais du coup, tu retiens l'information grâce à ça. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas eu la diarrhée ce jour-là, tu vois? Et donc, pour moi, en fait, le truc, c'est que ça m'a fasciné, du coup, sur le, George Bush. Je voulais tout savoir de sa journée à George Bush ce jour-là, tu vois? Et en fait, de voir qu'il était déconnecté de ce qui se passait, qu'il était dans une école, que machin. Et en fait, ça m'a passionné à tel point que... je me suis vachement intéressé à son VP de l'époque, Dick Cheney, et j'ai lu des livres sur à quel point il a... Bon, après, ils en ont fait un film qui s'appelle Vice, qui est super. Mais en fait, pour moi, c'est comme la musique, la passion, elle vient toujours d'une information quelque part, tu vois. Pour t'aider à te passionner, en fait. Moi, je considère que nous trois, je suis sûr, on est tous les trois des passionnés. Ce que je veux, c'est que les gens le soient. Et je pense que dans ce... pour passionner les gens... il faut bien leur expliquer. Il faut leur expliquer avec passion ce que c'est.
Ouais. Mais en vrai, moi, je me retrouve de ouf dans ce que tu dis. C'est juste que j'ai un peu perdu patience, moi, tu vois. Genre, ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur Internet et tout. Et genre, et je vois, j'ai l'impression un peu de prêcher, soit de prêcher des convertis, soit juste, bah, je me fais insulter parce que j'ai un avis de con, quoi, tu vois. Donc, au bout d'un moment, genre, j'ai quand même des retours de temps en temps, un type qui me dit « Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, nanana, mais c'est ultra, ultra minoritaire. » Alors évidemment, je me remets en question, je me dis « Mais qu'est-ce que j'ai pas bien expliqué? Qu'est-ce que machin ?» etc., tu vois. Et puis après, je me dis « Ah vas-y, flemme, tu vois. Genre, ouais. Si t'aimes pas, t'aimes pas, tu vois. » Genre, ouais, au bout d'un moment. Ça. Mais après, tu vois, moi, je me retrouve à fond dans l'esprit de cette démarche à la base, tu vois. C'est juste que, au bout d'un moment, c'est fatigant, tu vois.
Je suis d'accord. Et après, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout faire des choses, tu vois. C'est en faisant les choses que justement tu marques ton point, hein, tu vois, vers la direction que t'as envie de montrer. C'est tout le travail que j'essaie d'effectuer depuis des années, tu vois.
C'est ce que je me suis dit aussi, tu vois, parce que genre moi, en vrai, les gens qui m'inspirent, c'est pas des vulgarisateurs, tu vois, c'est des artistes. Donc je me dis, je peux juste faire de la musique et si ça doit inspirer des gens, ça inspirera des gens. S'il y a des gens qui aiment pas, ils aimeront pas et voilà, tu vois. Mais ouais. En tout cas, enfin, tu vois, l'esprit de la démarche de venez, on dialogue et tout, nanani, nanana, c'est un truc que je trouve hyper intéressant, tu vois. Mais j'arrive plus à m'investir émotionnellement là-dedans, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je comprends. Moi, je t'avoue que c'est mon combat, donc, enfin, c'est vraiment ma vie, quoi. J'adore ça.
On parle de pédagogie principalement.
Ouais, ouais.
C'est d'essayer, voilà, d'ouvrir culturellement, de discuter de musique, de comprendre aussi ce qu'il y a. Parce que la musique, ça véhicule plein de choses en réalité. C'est pas juste du son que t'entends dans tes oreilles, quoi. Et c'est une ouverture même sur le monde de manière générale. Ça a tendance à évoluer, mais on associe même des milieux socioculturels souvent à des types musicaux très précis.
À fond. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui aiment pas le rap.
C'est là où j'allais en venir. C'est que justement, c'est aussi une lutte d'un mépris de classe énorme. Tu vois? C'est aussi ça le truc. C'est que, moi, ce que j'essaye de démontrer dans ce que je fais, c'est le racisme systémique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait écouter par... je vais pas dire par vice, mais c'était plutôt pour montrer mon point à des maisons de disques. Je citerai pas ni la maison de disques ni des artistes. J'ai fait écouter des artistes qui faisaient vraiment de la variété française. Guitare, chant, tout ce que tu veux, batterie au balai, du Louis Attaque. Et j'ai fait la démarche de pas dire ni le nom, ni de montrer de photo, et de dire, ouais, voilà, c'est un gars, c'est super, machin, le mec, il m'a fait, putain, c'est incroyable. C'était il y a moins de 8 ans, c'était il y a peut-être 7-6 ans. Et ils ont découvert que ce mec-là, avec qui je faisais de la musique, c'était un rebeu, tout ce qu'il y a de plus normal, tu vois, il y a pas de souci avec ça. Et ils ont dit, ah, ok. Et en fait, ils pensaient que c'était un blanc, et du coup, ils ont voulu le signer en pop urbaine.
Voilà. Yes.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
Ça veut dire que... Et donc...
on en revient à ce qu'on a dit en off tout à l'heure pour rire, tu vois, mais les Daft Punk, les machins, finalement, est-ce que c'est là où on va aller? Genre, tout le monde se couvre, on montre pas qui on est pour pas être stigmatisé tout de suite? Je pense pas. Ouais. Il faut que la musique, elle reste juste. On ferme les yeux, on l'écoute et on se dit alors j'aime, j'aime pas. Et si j'aime pas, est-ce que c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons? Et puis après, essayer. En fait, il faut que les gens se passionnent pour la musique et c'est tout. Tu vois. À la limite, les acteurs, on s'en fout.
Ah, c'est marrant parce que moi, j'aurais pas forcément cette démarche. C'est-à-dire ouais. que c'est un truc qui. Je me suis toujours dit dans ma vie, si un jour je dois m'engager politiquement, vraiment m'impliquer vraiment de manière importante, ce sera à travers le culturel et la musique, parce qu'effectivement, je suis persuadé que ça véhicule une vision du monde et qu'on nous enferme, en fait, avec nos goûts musicaux. Pour la plupart des gens, on est enfermés dans nos goûts musicaux et qu'en fait, c'est juste un représentatif de comment on voit les autres aussi. Tu vois, c'est pas que lié à la musique. Et par exemple, c'est un truc qui évolue. Ça, je pense qu'il faut être positif aussi parfois. Moi, je me rappelle quand j'étais ado au collège, pour dire de manière ça extrêmement cliché, le rap c'était un truc d'arabe et de noir et le rock c'était un truc de blanc.
Bien sûr.
Vraiment, c'était un truc vécu comme ça. Heureusement.
Mais ça, c'est toute une génération qui a pensé ça. Bien sûr. Je suis complètement d'accord.
Et ça m'a toujours tué, déjà, d'entendre ça, parce qu'en plus, moi, j'adorais les deux. Donc, ça me faisait beaucoup de mal. Et surtout, c'était une méconnaissance absolue de l'histoire de ces mouvements musicaux. Parce qu'en fait, et c'est là, tu vois, la différence, c'est que pas seulement ça, pour moi, pas seulement s'arrêter à la musique, mais c'est qu'en fait, en observant, en se cultivant autour de l'histoire de ces mouvements, on remarque que le mélange a été là dès ses origines. Et que le rock, putain, bah, s'il y a une musique noire, c'est quand même le rock, justement, à la base.
Bah ouais. Bien sûr.
Tout ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que tu vois que moi, je m'arrêterai pas seulement de dire, oui, faisons fi de tout ce qu'il y a autour, c'est que la musique. Non, au contraire, justement, voyons la richesse qui existe dès les origines, etc. Et qu'en fait, ça n'a pas de sens de mettre tout ça dans des.
Ah non.
Alors, attention, tu me fais dire un truc que j'ai pas dit, hein. Moi, je dis que la musique n'a pas de couleur, c'est-à-dire ferme les yeux. Moi, par exemple, Bad Brains, je savais pas qu'ils étaient noirs, tu vois. Moi, je pensais qu'ils étaient blancs quand j'étais petit. La première fois que j'ai écouté Bane in DC, j'étais là, en fait, je m'en foutais de savoir s'ils étaient. Et en fait, c'est des Rasta. C'est des Rasta qui font du punk. Qu'on sache, qu'on sache pas. Alors après, effectivement, tu creuses et c'est encore plus intéressant de le savoir. Mais pour moi, il y a une différence entre apprécier de la musique qu'on te fait écouter et en connaître les origines et du coup être ou non influencé par ce truc-là. Il faut que la musique soit super avant tout, tu vois ce que je veux dire? Et après, l'histoire de la musique, c'est un truc... C'est vraiment ma passion, moi. Donc évidemment que moi, je suis ravi quand je vois des blancs bien conservateurs qui disent que le rock c'est plus comme avant parce qu'ils viennent de sortir d'un concert de block party avec un chanteur noir alors qu'à la base ça n'était que ça, tu vois, et je leur dis mais donc Chuck Berry n'a jamais existé en fait, enfin vous êtes des dingues, mais c'est génial.
Donc c'est même une nécessité pour moi, cette éducation autour de l'histoire des mouvements musicaux, parce que d'une part je trouve ça passionnant effectivement, mais je pense surtout que ça nous enrichit tous en fait.
Mais on est d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que je disais en préambule que ça doit commencer par l'histoire de la musique, intéresser les gens d'une certaine manière, tu vois, même classifier, mais c'est pas pour les jeunes, c'est plutôt pour, moi je parle des gens qui sont passés à côté, tu vois, c'est pour aller chercher des gens et les intéresser. Moi je veux que les gens ils écoutent de la musique, en fait c'est ça ma politique, je veux que les gens ils écoutent de la musique quoi.
Ouais, mais ça je comprends. Mais en fait, on tombe un peu toujours sur le même os quand on arrive dans ce genre de débat, c'est que la musique c'est beaucoup trop large et multifacette pour vraiment en parler bien. En tout cas, moi je me sens jamais. Il y a toujours un moment où je me dis attends, ça devient trop compliqué pour moi parce que c'est à la fois une expérience sensorielle, c'est une expérience sociale, c'est à travers ça que t'exprimes tes goûts, etc. Donc si on enlève tout d'un coup les classifications, le fait que les gens puissent se cacher derrière la musique ou se réfugier derrière la musique pour afficher une certaine forme de mépris de classe, etc. On peut aussi se poser la question de si ça a pas une forme de fonction sociale, tu vois ce que je veux dire? Genre,
ouais.
Lui, il écoute ce genre de truc, à lui, il est à ce genre de concert, etc. Nous, pour l'instant, vu comment la société est, on n'a pas envie de se mélanger, la musique, c'est un moyen aussi de ne pas le faire, etc.
C'est le principe de la distinction, effectivement.
Ouais.
On dit quelque chose, c'est du bourdieu.
Ouais, voilà. Et c'est vraiment des expériences et des fonctions de la musique qui n'ont rien à voir. Et j'arrive pas à bien comprendre ce que moi je veux dans tout ce truc-là, tu vois. Si je sais bien sûr que j'ai envie que les gens ils soient bien, tu vois. Et j'aime bien que, enfin, moi ce que je vois dans la musique, si je pouvais le transmettre comme ça d'un coup de baguette magique à autrui, je m'en ferais un malin plaisir, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment archi compliqué d'être pédagogue. Plus j'apprends la musique et plus je vois tous les tenants et les aboutissants, moins je me sens légitime à en parler déjà. Et plus je me sens... plus ça m'a l'air vraiment complexe, tu vois. Moins j'ai envie d'avoir une influence vraiment dedans, autrement que par l'instinct, parce que j'ai l'impression que mon intellect n'arrivera pas à faire le bon choix. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, après, je suis pas... Enfin, je suis personne non plus, tu sais. C'est pas... Je pense que c'est juste si tu le sens, enfin, il faut le sentir, tu vois. Genre moi, j'ai vraiment envie, en fait, que j'ai envie, si tu veux, de faciliter plein de choses pour les nouvelles générations. En fait, c'est plus ça mon combat qu'autre chose.
Ouais.
Tu vois, je pense, moi, je suis très proche du mouvement féministe, par exemple.
Ouais.
Pour te prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais qui quand même va rejoindre ce qu'on se dit là, il y a des femmes qui se sont battues pour leurs droits depuis 60, 70 ans, même plus, tu vois, qui commencent à élever leur voix. Et là, depuis vraiment 5 ans, elles commencent à avoir des tribunes, elles commencent à pouvoir s'exprimer, etc. Et moi, je vois des conversations où je me dis, quelle patience! Mais c'est, mais les limites, enfin, vous devriez me placer des bombes, quoi. Enfin, c'est incroyable qu'on vous écoute pas à ce point-là ou qu'on vous, tu vois. Et en fait, elles s'arment d'une patience énorme parce que leur but, c'est que leurs enfants ne vivent pas les mêmes choses qu'elles et que leurs petits-enfants non plus. Et ouais. C'est ça depuis des générations. Et ouais. En fait, moi, si tu veux, alors c'est un combat qui est tout autre, ça a rien à voir, évidemment, mais pour moi, il y a quand même un mépris de classe énorme dans la musique et c'est ça mon combat. Tu vois, plus qu'autre chose. C'est-à-dire de dire, la musique, à la base, tout ce qui a toujours été numéro 1, machin, tout ce qui a toujours cartonné, Elvis, etc., Michael Jackson, quand il a cartonné, etc., c'était des jeunes, tu vois. Ouais. Et de voir qu'en fait, aujourd'hui, ils sont comme avant. Hein. Je dis pas qu'aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Au contraire, je trouve ça beaucoup mieux qu'avant.
Ouais.
Mais avant, de voir que c'était des vieux qui jugeaient des jeunes, que c'est des vieux qui produisent des jeunes, que c'est toujours... Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, pas bienveillant du tout, tu vois. Aujourd'hui, quand je vois qu'il y a une diversité énorme, qu'il y a une folie qu'on n'a jamais eue dans l'histoire de la musique, à plein de niveaux, qu'on voit des Billie Eilish faire des trucs tellement spé et être numéro un.
Ça, c'est trop
tu
bien.
Tu vois, qui quelque part, est un peu l'enfant de industriellement parlant, hein, pas dans la musique, mais de Björk, qui elle, pareil, mettait plein de choses de côté pour faire exactement ce qu'elle avait envie de faire, s'enlever les chaînes, tu vois, pour faire exactement ce qu'elle avait envie de faire. Enfin. Après, Billie Eilish, elle est numéro 1. Björk n'était pas numéro 1 dans le monde. Donc c'est là où il y a une progression, tu vois. Et la musique, elle est tellement bien. Et vraiment. C'est hyper bien composé, hyper bien interprété. Ouais, enfin, je veux dire, de toute façon, je suis pas un prof. Je suis pas là pour dire, donner une note à la fin, mais je suis juste admiratif. Et je pense que cette admiration-là, il faut s'en servir pour surtout quand on a la chance d'avoir des communautés de gens qui nous suivent et qui aiment bien écouter nos avis. Moi, tu me verras jamais faire une critique négative d'un truc. Si j'aime pas, comme disait Booba, si tu kiffes pas, t'écoutes pas. Bah moi, c'est si je kiffe pas, j'en parle pas.
Ouais.
En fait.
De manière générale, je fais ça aussi. Après, de temps en temps, ça peut être un bon support pédagogique. Et tant que t'es pas dans le mépris, je pense que ça peut être intéressant aussi de prendre des trucs avec lesquels t'as pas forcément d'affinité et de dire ça, on aurait pu faire ci, ça, on aurait pu faire ça, etc. Même si c'est pas une démarche, tu vois.
Attention, moi, je te parle de moi. C'est-à-dire que je ne critique pas les gens qui critiquent des gens.
Ouais, non,
au contraire, des fois, j'aime bien. Lire des trucs et me dire j'ai pas trop aimé et voir que quelqu'un d'autre n'a pas aimé, ça, c'est pas que ça me conforte, mais je me dis ah, je suis pas le seul à penser que cet album ou ce projet est un peu raté, tu vois. Mais
quoi qu'il arrive, en tout cas, faut que toi tu sois en accord avec tes principes et tout ça, tu vois.
Bien sûr. Mais, moi, je te dis juste, moi perso,
pas bête et méchant.
Ouais. Il y a tellement de trucs bien que je préfère me focus sur parler des trucs bien que j'ai pas envie de parler des trucs qui sont moins bien. Ça.
Moi aussi. En plus, de manière générale, moi, je pense typiquement, tu parlais de Weshden et tu parlais du mépris de classe, etc. Tu vois. J'aurais deux trucs à dire là-dessus. C'est que déjà, moi, j'admire et je respecte beaucoup l'engagement des gens, tu vois, parce que pour moi c'est un truc que je n'arrive pas à faire, tu vois. Moi j'arrive pas à vraiment prendre position, etc. Genre j'arrive pas à être ok avec ce truc là, fin tu vois ce que je veux dire, à être bien centré. Mais par exemple pour moi genre ils ont perdu les élitistes, les ceux qui m'aiment, enfin tu vois, genre c'est pas deux mâles blancs cisgenre de 55 ans au-dessus de la tour Eiffel en train de faire ODD, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je suis d'accord.
Donc, le combat, pour moi, il est gagné, tu vois ce que je veux dire. Après, je parlais de Weshden. Ce qui participe aussi à son succès, c'est les gens, justement, qui en disent du mal et qui disent « c'est comme Jul, c'est comme PNL, c'est comme machin, etc. » Cobaladé, quand il a percé, les gens se foutaient de sa gueule avec sa voix, etc., tu vois. Et je pense que ça fait partie de ce truc-là aussi. Les gens qui n'aiment pas et qui... c'est très facile de faire une critique, tu vas sur Twitter, tu dis hey, « Eh, lui, c'est nul, non, j'ai pas raison, la mif !» Et hop, tu vois, tu donnes du cloud à cette personne, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, bien sûr.
Le succès des Weshden, il est bien sûr dû à son talent, à une certaine fraîcheur, à une authenticité, etc. Mais aussi à comment les gens réagissent à ce truc-là et comment, encore une fois, pour eux, c'est plus important de dire « Regardez, moi, ça, j'aime pas. Moi, ça, j'aime pas. Je me définis par opposition à ce truc-là. » Et j'en ai rien à foutre si ça donne de la force à ce truc-là.
Mais encore une fois, là tu vois, tu vises complètement juste, mais là, pour moi, on parle des gens, tu vois. Et pour moi, ce que pensent les gens de quelque chose, à la limite, c'est super. On parle de la musique, tant qu'on parle de la musique, moi, je suis heureux. Même si on en parle en pas bien, machin, bon, après, je fais mon filtre. Moi, ce qui me dérange plus, dans le cas de Weshden, c'est le mépris de classe des médias. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on va aller 15 ans en arrière, c'est qui la Weshden ? C'est Alizée. Alizée est blanche, ça pose aucun problème, on l'invite partout, on la dresse en égérie, on dit que c'est peut-être la future Mylène Farmer parce que, voilà, je te parle des médias, je te parle pas des gens. Les gens n'aimaient pas spécialement Alizée. Bon, elle avait des fans, évidemment, elle avait plein de fans, elle remplaçait des salles de concert dans tous les sens, elle vendait plein de disques, mais... disons que le mépris, il venait pas des médias. Il n'y avait pas un mépris d'Alizée, tu vois. Comme il n'y avait pas un mépris de Vanessa Paradis, tu vois, quand elle est arrivée avec Joe le Taxi. Et là, il y a Weshden, et ben il y a un mépris tout de suite, tu vois. Et moi, j'aimerais juste qu'on vive dans un monde où, eh ben, que t'aimes pas, eh ben, on peut débattre, c'est super de débattre sur Twitter, machin, je vois les gens qui vannent, qui machin et tout. Ça, c'est les gens, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu es un média, t'as un rôle important. On parlait d'éducation tout à l'heure, d'histoire, de plein de choses. Le média, qu'il aime pas, ça c'est son droit le plus strict, tu vois. Mais que le mass média, qui en général ne font que relater des infos en disant bah machin est numéro 1, tu vois. Qu'ils s'en tiennent à ça, qu'ils fassent leur boulot.
T'as l'air d'avoir un exemple relativement précis. Parce que moi, par exemple, Weshden, j'en ai pas du tout entendu parler par les médias. Et du coup, je vois pas trop de quoi tu parles. T'as des exemples de la manière dont elle a été traitée?
Le tueur de ma vue, il a fait parler énormément. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était genre, les jeunes savent plus parler, mais attends, c'est dingue.
Mais pour moi, c'était. C'était les gens de Facebook. Et sauf Facebook. Mais pour moi, c'était...
Il y avait de grands rédacteurs en chef de...
Ah ouais, c'est vrai. Parce que moi, j'ai pas
de médias. Ouais.
Ok. Ouais. Bah, ça craint.
Bah ouais, ça craint. Bien sûr que ça craint. Mais ça se trouve, eux-mêmes, à l'époque, disaient du mal d'Alizée. Mais en tout cas, ça se ressentait pas dans la presse en général. Alizée, elle avait fait, je crois, 3 ou 4 fois la une de Télé 7 jours. C'est ce qui va chez les gens, tu vois, en France, c'est l'un des magazines les plus achetés en France, tu vois. J'ai pas vu Weshden sur Télé 7 jours, tu vois. Alors peut-être c'est sa com, elle veut pas. Moi je pense qu'elle voudrait, tu vois, mais voilà, moi tu m'enlèveras pas l'idée. Après que t'aimes pas, je m'en branle. Mais tu m'enlèveras pas l'idée qu'on donne pas les mêmes chances à tout le monde.
Voilà. Non, ça c'est certain. Mais d'ailleurs, le. beaucoup de styles musicaux populaires se heurtent à du mépris en réalité. Alors certains vont être beaucoup plus touchés que d'autres, c'est vrai. Et souvent lorsqu'ils viennent de quartiers plus difficiles d'ailleurs, ils sont représentés par des gens issus de l'immigration, ça c'est une réalité je pense effectivement. Mais même, même la chanson populaire, le rock, la chanson française, etc. peuvent régulièrement être sujets à du mépris par des grands médias aussi, ou par les institutions culturelles aussi de notre pays. C'est une vraie problématique, on le voit sur les subventions, etc. Ouais. Tout le monde n'est pas traité de la même manière.
Bien sûr.
Bon, je pense qu'on a fait un bon point sur tout ça. À vrai dire, je pensais pas du tout que l'émission se passerait comme ça. J'avais prévu un petit point, mais c'est pas grave du tout parce qu'on aborde des sujets passionnants. D'ailleurs, je pense que je vais redonner un nom un peu différent en vérité à l'épisode parce qu'on parle plus de la classification des genres musicaux, du lien qu'ils ont entre eux, du sens que ça a un peu tout ça. Donc, continuons là-dessus. Effectivement, c'est passionnant. Mais j'aimerais qu'on aborde quand même, tu vois, avec un petit point de vue qui est très propre. C'est le point de vue du guitariste. Parce que oui. Ok, c'est bien beau de dire rock, rap, le rock c'est une énergie, le rap peut être tout à fait rock, punk, etc. Mais tu admettras quand même qu'il y a aussi des esthétiques sonores qui sont souvent propres à certains genres.
Bien sûr,
que
ça,
la guitare saturée, elle est quand même beaucoup plus présente dans un contexte rock que rap. Mmh. Comment justement, toi en tant que guitariste, tu t'adaptes un peu à tout ça? Est-ce que quand tu bosses avec un rappeur, t'as une approche de la guitare différente que quand tu fais un morceau, une reprise rock, tu vois, qui est le côté plus musicien-instrumentiste autour un peu des questions qu'on aborde depuis tout à l'heure.
La guitare, c'est une vraie passion. J'ai une vraie passion pour cet instrument, pour sa sonorité. Enfin, c'est vraiment l'instrument qui a bercé mon enfance et qui m'accompagne depuis toujours. C'est mon meilleur ami, enfin tu vois, pour moi c'est ma mif, mes guitares, tu vois, c'est et je dois t'avouer que je milite aussi pour qu'il y ait de la guitare le plus possible partout, tu vois, et en fait je suis ravi aujourd'hui parce que j'en entends partout, c'est-à-dire que quand j'écoute du Yann Dior, il y a de la guitare, quand j'écoute REP Juice WRLD, mais il y avait de la guitare partout, Lil Peep, il y avait de la guitare partout, il y a des morceaux de Migos, il y a de la guitare, il y a des morceaux de Drake, il y a de la guitare. En fait, il y a de la guitare, tu vois.
Et on a même vu un truc que j'avais quasiment jamais vu, que j'avais jamais vu avant de ma vie en France. C'est là, il y a eu bien 3-4 rappeurs ces dernières années qui sont guitaristes. On voit sur scène,
je pense
à Capoin, Sopico, des mecs comme ça.
Ah ouais.
C'était inimaginable auparavant d'ailleurs. Mmh. C'est une victoire pour les guitaristes, ça.
Bah, en fait, je pense que c'était inimaginable parce que il y avait aussi ce côté. Il y en a qui étaient musiciens, tu vois. Par exemple, tu vois, en fait, tu vois, je pense qu'il y a aussi un truc. Alors, c'est aussi jouer avec le jeu de la scène dans laquelle tu es et de ne pas forcément dévoiler des choses que tu fais. Tu vois, il y a des choses qui étaient honteuses avant. Par exemple, dans les années 90, tu avais très peu de rappeurs avec les cheveux longs parce que les cheveux longs, c'était quelque chose qui était un truc de schlag, un truc de hippie et donc un truc de blanc, de rocker, etc. Il y avait une typologie. Et puis après il y a des précurseurs qui sont arrivés comme ça, comme La Caution, qui ont commencé à débarquer avec des cheveux longs, puis parce que c'est un peu les précurseurs, mais voilà, bon, après ça a été aujourd'hui avec Open PNL Bar. Voilà, après il y en a plein qui ont débarqué avec
le
des cheveux longs
brésilien.
Voilà, exactement. Mais et ben pour moi la musique c'est un peu pareil, tu vois, par exemple beaucoup de gens à l'époque disaient Ophélie Winter c'est une interprète. Ophélie Winter, c'est une meuf. Quand elle était au studio, elle chante son truc. Après, elle prend le Pro Tools, elle fait tous ses editings, ses machins. Qu'est-ce qu'on en sait, nous, que cette meuf-là, en fait, c'est une prod. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
On sait pas forcément tout ça. Et je pense qu'il y a plein de rappeurs qui, en fait, sont musiciens. Tu vois, moi, par exemple, Hawks, lui, il adore la basse. Et il joue bien. Il joue bien de la basse. Ouais. Mais lui, il se serait pas vu, je pense, dans les années 90, à l'époque de Time Bomb, débarquer avec une basse et jouer sur scène avec une basse.
Ouais.
C'était pas dans le truc de l'époque.
Ouais, la culture du rap a changé aussi, parce que déjà, il y a beaucoup plus d'offres, il y a beaucoup plus de rappeurs, tout le monde est rappeur maintenant, à peu près. Et du coup, il faut se démarquer. Et en plus, avant, je pense qu'un rappeur très chaud, c'était un rappeur qui rappait super bien. Ouais. Et maintenant, un rappeur très chaud, c'est un rappeur qui vend beaucoup de disques. Et là-dedans, t'as la musicalité, c'est sûr, ça rentre en jeu de ouf. Plus tu t'ouvres, parce qu'avant on disait ça dans le milieu du rap, c'était les morceaux ouverts. Donc c'était les morceaux où tu ramenais une meuf pour le chant, puis après, bon, t'as eu l'autotune qui est arrivé, puis tout le monde a commencé à pouvoir le faire, etc. Mais en tout cas, l'ouverture musicale pour toucher le grand public, ça fait partie des cordes que t'es censé avoir à ton arc pour être un rappeur très chaud aujourd'hui. On a quand même l'anti-exemple de ça, c'est Freeze Corleone. Mais sinon, genre, justement, maintenant, être un rappeur musicien, je pense que c'est beaucoup plus vendeur. Ou à l'époque, t'avais vraiment un truc, c'était genre, non, moi, je suis rap, ni le reste et tout, tu vois.
Bah ouais, mais entre-temps, t'as eu Outkast, par exemple, qui est arrivé, des groupes comme ça, où effectivement, tu vois, André 3000 dans Eya, non seulement il a fait un tube qui a été numéro 1, mais en plus, il avait un lissage, il avait une guitare acoustique dans les mains, et en fait, tout le monde s'accordait à dire que André 3000 était peut-être l'un des meilleurs rappeurs, non seulement du sud des États-Unis, mais peut-être de sa génération, peut-être même de l'époque dans laquelle il rappait. Et donc de voir un mec aussi fort ouvrir ce truc-là, je pense que ça a donné des idées à plein d'autres. Je pense que les Lil Wayne, etc., qui se sont ouverts au rock derrière, ils l'auraient peut-être moins fait s'il n'y avait pas eu un mec archi-respecté qui se lançait là-dedans, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Et aujourd'hui, on grandit avec... des gens qui n'ont plus du tout aucune de ces règles-là. Et moi, je trouve ça mortel.
Ouais, c'est ça. Aucune limite. Ouais, ça, c'est trop cool.
Je suis à la fois d'accord avec toi, et en même temps, je sais pas si je mettrais la France au même niveau que les États-Unis à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'ouverture, vraiment, à ce point, tu vois, de jouer avec un groupe, déjà, avec plusieurs instrumentistes autour de soi, voire de faire un album... Quasiment dans les sonorités rock, c'est quand même beaucoup plus rare. Il y a eu évidemment l'exemple de This Is, dont tout le monde a parlé avec Peter Punk, mais c'est l'un des rares exemples où c'est allé aussi loin, entre guillemets, dans la prise, tu vois, de risque, de position, à l'inverse des Américains qui l'ont fait. Tu parlais de Lil Wayne, par exemple, il a fait vraiment des morceaux à guitare complet, limite un album de rock, tu vois.
Et il a fait un album de rock.
Ouais, et j'ai l'impression que on n'est pas aussi ouvert non plus en France à ce niveau-là. Il y a encore des réminiscences, tu vois, de cette époque où tout était très fracturé, tu vois, un peu à part, à côté. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas,
moi,
la proposition n'est pas encore allée jusqu'au bout, j'ai l'impression, tu vois.
Je suis pas d'accord. Soso Maness, il a fait un morceau qui s'appelle Interlude, qui est un morceau de grunge, typiquement en plein milieu de son album, qui est un album de rap moderne, tu vois. Et au milieu, t'as un morceau de grunge. T'as Yuzma qui lui fait piano, chant, machin, etc. C'est le Elton John du rap, tu vois ce que je veux dire. Non, je trouve que vraiment, on a aucun retard sur les États-Unis. Et on est,
bah,
on
la
est,
France, c'est plus petit,
c'est,
surtout.
C'est même pas comparable, en fait, en réalité. C'est une autre culture. Mais déjà, la vision du rock aux États-Unis et en France n'est pas la même. Et ce que les rappeurs prennent du rock aujourd'hui, pour moi, c'est il y a rien à envier aux États-Unis, si tu veux. Après, les États-Unis, eux, effectivement, c'est un peu comme tout, tu vois, ils sont beaucoup plus nombreux et ils communiquent plus facilement que nous en France.
Mais je pense que ce que je comprends, moi, dans la question de Salman, c'est plutôt la notion d'équivalence. Genre, si tu prends à l'ancienne, par exemple, t'avais Mobb Deep aux États-Unis et t'avais Lunatic en France. Tu pouvais établir comme ça des parallèles assez clairs, alors qu'aujourd'hui, par exemple, un Lil Peep français, il n'y en a pas vraiment, tu vois. Genre,
t'as Seven Eden. T'en as deux, trois.
Ok.
Mais évidemment, Lil Peep, lui, il a vendu quoi ? Allez, on va dire, en tout, il a dû vendre 300 000 disques. Ouais. Ce qui, en France, serait un platine, un triple platine. Aux États-Unis, c'est rien du tout ce qu'il a vendu. Nous, on aime beaucoup Lil Peep, tu vois. En France, il y a des artistes comme ça. Tu sais, Lenny Kravitz, par exemple, c'est une star en France. Tu sais, aux États-Unis, c'est pas une star au même niveau que la France. Comme Ben Harper, qui était une star en France et qui était absolument inconnu aux États-Unis, tu vois. Nous, il y a des trucs qu'on se prend que eux, enfin, tu vois, moi j'ai parlé des Américains de Lil Peep, je savais pas vraiment qui c'était. Alors que c'est des gens qui sont des activistes du rap, tu vois.
En fait, c'est du coup encore plus surprenant qu'on n'ait pas de Lil Peep français. Enfin, après, tu me dis qu'apparemment il y en a un,
bien sûr.
Tu vois, genre.
On en a un, mais le problème c'est que justement, là où Lil Peep vendait 300 000 dans un pays où ils sont 700 millions, ils vendent 300 disques. Et donc, toi-même qui chronique de la musique, tu n'en as pas entendu parler. Et moi, j'en ai entendu parler parce que mon manager m'a dit, il faut que tu travailles avec lui. Et en fait, il est produit par Core. le mec.
Ok.
Donc tu vois, ça arrive.
Tout se mélange.
En fait, l'idée, ce que je cherchais à dire, hein, c'est pas qu'il n'y a pas de métissage, de mélange, d'ouverture en France par rapport aux États-Unis, bien entendu, mais c'est que j'avais l'impression que les propositions étaient un peu moins extrême, enfin non, c'est pas le bon terme, mais tu vois, affirmer et aller pousser, c'est-à-dire que tu vas voir quelques morceaux, effectivement, tu vas dire, ouais, sur telle tournée, je vais faire appel à un gratteux avec moi, enfin, tu vois, des touches régulières comme ça, mais pas encore, et c'est pour ça que je citais DC's tout à l'heure, c'est, tu sais, la proposition qui tranche complètement et de dire, vas-y, moi, je pars dans un autre délire sur tout un album. J'ai l'impression quand même qu'on a un peu moins ça. Mais d'ailleurs, même aux États-Unis, c'est pas si courant en réalité, parce que même d'un point de vue économique, c'est très compliqué. Une carrière d'artiste, la mener en disant je fais un virement complet sur un album, c'est super compliqué.
Ouais.
J'en ai bien conscience, tu vois, mais j'ai parfois l'impression que notre scène est moins radicale, d'une certaine manière, tu vois, sur des choix comme ça, de ce type-là. Ce qui n'enlève pas une richesse, même parfois plus importante qu'aux États-Unis, sur certains points en France, bien entendu. Hein.
Ouais, ouais.
Ou même d'ailleurs, dans une certaine mesure, toute la vague un peu, tu sais, qu'on qualifie parfois d'emo rap, tu vois, XXXTentacion à une époque, bon, qui est décédé aujourd'hui, mais moi par exemple j'ai poncé le dernier album de Young Lean, Stars, j'adore ça, j'ai l'impression que tu vois cette proposition, il y a peut-être un peu Zedune Pavarotti en France qui peut se rapprocher un poil de ça, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins développé aussi ce côté-là.
Parce qu'il y a moins de public aussi,
ouais,
en fait, tout simplement. C'est, tu vois, moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Après, peut-être que ça n'a rien à voir. Mais moi, pendant longtemps, j'ai travaillé avec le Grand Journal. Le Grand Journal, on est d'accord que c'était à l'époque le talk show un peu à la Jimmy Fallon à la française. On est d'accord ?
Mm-hmm. Ouais. Ouais, ouais.
Pour être allé en coulisses de Jimmy Fallon, les mecs, ils sont 50 auteurs. 50 auteurs divisés en 5 parties sont 10 par van, tu vois. Il y a des vannes qui sortent, eux, ils les taillent, ils les découpent, ils les machins, etc. Une fois qu'ils ont fait tout le texte, ils mettent tout sur un prompteur. Le mec qui est le présentateur, il le paye super cher, parce que c'est un mec qui pourrait être acteur dans des films, etc., qui d'ailleurs a joué dans des films, qui sait danser, chanter, qui a fait 15 ans de Broadway. C'est du spectacle. Et... Donc c'est pour ça qu'il y a 50 personnes pour payer le truc, t'as 5 ingé son, t'as etc. Au final, là, ils répètent toutes les missions de 14h à 17h, après ils font rentrer le public et ils refont l'émission en étant complètement acteur. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien machin, etc. Coût total de l'opération, entre guillemets, $700,000 ou $1,000,000 par jour.
C'est fou.
Mais oui, mais derrière, t'as des pubs, t'as des trucs, des machins. Nous en France, le Grand Journal, 2 auteurs. 2 auteurs, pas de répétition. Mais pourquoi ? Mais parce qu'on n'a pas les moyens, en fait. Donc il y a un moment où, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oh ouais, c'est la version Wish ». Mais non, c'est la version. C'est la version juste de... On est un petit pays. C'est déjà bien d'avoir cette version-là. C'est déjà bien, tu vois, d'avoir cet accès-là.
Et il y a peut-être même un truc culturel aussi où en France, on n'a pas forcément envie d'une émission à ce point calibrée comme chez Fallon, par exemple. Peut-être qu'on n'a pas la même culture, la même envie.
Aussi. Mais tu vois, tu me citais Zedune Pavarotti. Moi je connais un artiste qui fait un peu du Zedune Pavarotti qui je crois a vendu 50 CD de son premier projet. Qu'est-ce que tu veux que à la Post Malone il aille chercher des millions par track, tu vois, il peut pas faire ça, tout le monde ne peut pas faire ça, donc effectivement après on compare, on dit ah ouais lui c'est le Post Malone du pauvre, c'est le machin, non mais vous êtes sérieux les mecs, enfin c'est non pas du tout, au contraire il fait le truc par passion et je trouve qu'il y a des fois plus de corps et plus de belles choses dans des versions françaises digérées et fait avec passion d'un truc qui existe aux États-Unis qui a été un peu dénaturé par l'argent. Voilà. C'est peut-être un point de vue où je vais me faire défoncer,
ouais,
pour ça mais
super intéressant,
non. C'est, enfin, moi en tout cas, le côté ouais, c'est le machin du pauvre, etc. Moi, j'aime pas ça de toute façon. C'est pas une question. C'était juste vraiment, en tout cas, si on revient à ce que je disais, c'était par rapport à certaines propositions que je trouve plus radicales. Après, moi, je crois pas que. C'est vrai que j'entends souvent, par exemple, des gens qui disent ouais, le rap français au final, c'est juste les ricains avec 10 ans de retard, en gros. C'est un truc qu'on entend souvent quand même.
C'est un truc qui, dans la sphère rap, ne se dit absolument plus, quoi.
Genre, non, oui, c'est,
les rappeurs actuels ne bandent plus du tout sur les États-Unis. Genre, t'entends toutes les interviews de rappeurs actuels qui vendent, etc. Tu vois, genre, ils en ont rien à foutre des États-Unis. Hein. Un Niska, il s'en bat les couilles de ce qui se fait aux États-Unis.
Ah oui, complètement.
Et il a raison.
Ah oui, bien sûr. Mais après, il y a un truc aussi, bon, on va pas rentrer dans tout, parce que sinon, on va se perdre, mais il y a aussi le plus sous-côté de toutes de tous les mouvements, on va dire, mondiaux, c'est l'Afrique. Et en fait, c'est là où tout le monde va puiser tout, tu vois. Et pourquoi Young Thug, à un moment donné, avait des sonorités qui ressemblaient à des rappeurs qu'on pouvait avoir en France, c'est pas parce qu'il y en a un qui a voulu copier Young Thug, c'est parce que les deux sont allés puiser en Afrique quelque chose.
Ouais.
Et ce truc-là, du coup, ça fait de eux des Africains du pauvre ou pas? Je sais pas, tu vois, mais, mais les quinfris, je trouve qu'on les... c'est le vivier, on les met pas assez en avant.
Ouais.
Parce qu'on connaît mal aussi.
Exactement.
Mais parce que de manière générale, d'ailleurs, il y a une méconnaissance dans tous les domaines absolus du continent africain et du continent asiatique aussi souvent d'ailleurs. Hormis dans certaines productions pop culturelles pour l'Asie qui sont un peu plus les adolescents, manga, etc. On connaît un peu plus le jeu vidéo, mais les cultures traditionnelles nous sont beaucoup plus inconnues. C'est des continents qu'on connaît très peu, en fait.
Clairement. Après, sans aller jusqu'à parler de musique traditionnelle, moi, je place un SO quand même pour Kiff No Beat. C'est un collectif de rap ivoirien. Okay. Et j'ai découvert ça en 2014 avec un morceau qui s'appelle T'es dans pain. Et c'est incroyable. L'énergie qui dégage, je parlais de jeunesse tout à l'heure et tout, tu vois. Genre là, ils commencent plus à maîtriser leur truc, tu vois. Mais si tu regardes justement T'es dans pain, ce genre de bail et tout, et tu vois leur clip où genre il y a tout le village et tous les trucs comme ça qui sont là. Et genre, c'est l'ambiance qui se dégage de ces trucs-là est incroyable.
Et tu vois, typiquement,
la production n'a rien
pas.
À envier, tu vois.
C'est un truc que je connais pas et j'aimerais, tu vois, tu m'as donné envie, tu vois. Et ça y est, tu vois, c'est, après tu t'intéresses, tu machins, etc. Et c'est, je pense que c'est ça qu'il faut, c'est donner envie aux gens. Parler de trucs comme ça, quoi.
Et ceux qui kiffent nos beats.
J'en reviens à la guitare tout à l'heure, parce que c'est un truc qu'on n'a pas fait, que je voulais faire au début de l'émission quand même.
Ouais.
C'était, tu bosses avec Gibson.
Ouais.
D'ailleurs, on remercie Gibson parce que c'est par leur intermédiaire qu'on a pu t'inviter dans l'émission.
C'est vrai,
c'est vrai. Et Gibson, c'est rock. J'imagine que... c'est la provoque ce que je dis, mais tu vois, justement, les marques aussi, les instruments, etc., ils sont liés. La Les Paul, tu vois, c'est les Zepp, c'est...
Bien sûr.
Toute une imagerie, etc. Et j'imagine que pour toi aussi, quand même, par exemple, de jouer sur Gibson, d'avoir même... je crois que t'as ton modèle customisé, personnalisé, peut-être même un jour commercialisé, qui sait.
Ouais.
Mais ça doit être... Ça touche ta fibre, justement.
Ah bah
de,
oui, énormément.
De mec qui aime le rock, etc.
Ah ouais, énormément. C'est effectivement, il y a des marques qui, comme ça, ont marqué la musique par leur son et ont fait que la musique qu'on écoute aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, tu vois. Et je pense que sans Gibson, le rock n'aurait pas évolué de la même façon. C'est vraiment, ça a apporté un son, tu vois. Je pense que il y a des fois des choses comme ça qui sont des accidents et qui font que... C'est à un moment donné, c'était presque un style musical. La Les Paul, tu vois.
Son, c'est vrai.
Et pareil, la SG, tu vois, c'est presque des instruments qui ont poussé les gens. Tu vois, pour moi, mes instruments m'inspirent des chansons. Tu vois, j'ai différentes guitares, elles m'inspirent des riffs. Je pense que la SG a inspiré énormément d'artistes à faire ce qu'ils ont fait. Et je pense pareil à
l'Espol.
Parler
avec l'autotune.
Hein? Ah ouais, bien sûr.
Parler avec l'autotune.
Mais c'est ça qui est passionnant. Mais c'est pour ça que...
Après, c'est plus des effets, là. Là, on est plus sur les effets.
Mais
je vois ce que tu veux dire.
Ça te permet d'utiliser ta voix différemment. Enfin, je veux dire, comme Gibson n'a pas inventé la guitare, tu vois
non,
ce que je veux dire.
Non, bien sûr, je suis d'accord.
Les plugins te ramènent un truc.
La fuzz utilisée par Hendrix, ça devient presque plus qu'un effet, tu vois. Et l'autotune est presque plus qu'un effet aussi, ça devient presque un instrument à part entière.
Ah, mais c'est un instrument, carrément. Je suis d'accord. Ça fait longtemps que c'est plus un correcteur.
Absolument. Et tu vois, c'est intéressant ce qu'on dit. Bon, c'était aussi pour faire un petit coucou à Gibson, voilà, qui a
bien sûr
de nous mettre en contact. Merci à eux. mais c'est surtout aussi, c'était pas anodin, c'est que le matériel, les outils qu'on va utiliser pour faire la musique, il la modèle, il la modifie aussi, et que toutes ces esthétiques sonores dont on parlait, toutes ces cultures différentes, etc., ça passe aussi par ça, par renouveler le parc de matériel qu'on a, les outils qu'on utilise, etc. Est-ce que justement, toi, c'est un truc quand tu bosses avec des groupes, que ce soit pour live, que ce soit pour de la production d'albums, etc., est-ce que t'apportes ça aussi en disant, bah tu vois, ah putain, là j'ai envie d'apporter cette touche, cette sonorité, mélanger les genres, et ça doit passer par tel matériel, soit tel vieil MPC, soit au contraire tel plug actuel, soit alors ma Gibson branchée
brancher dans un ampli.
Bien sûr, c'est une réflexion que tu as aussi. Bien sûr que la singularité de chaque producteur, elle vient de son matériel aussi et des choses qu'ils vont utiliser. C'est vrai que moi, ce que j'aime utiliser, c'est la guitare. Comme objet principal, enfin, si tu veux, c'est le lien de tout ce que je fais dans ma vie musicalement, c'est avec de la guitare. Et par exemple, il m'est arrivé de faire des sessions avec des rappeurs où ils voulaient de la guitare et en fait le truc rentrait pas. Et en fait, au bout d'un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la réverb à fond et juste je faisais vibrer mon manche avec les accords et en fait, on dirait presque un synthé, tu vois. Et finalement, c'est ce truc là et finalement, c'est sous-mixé. Et derrière, ça fait une espèce d'ambiance et on se dit, mais il n'y a pas de guitare en fait sur ce morceau. Et si en fait, il y en a, tu vois. Et ça sent qu'il y a quelque part ma touche sur ce truc-là, tu vois. Et moi, juste le fait d'utiliser une guitare sur de la musique, peu importe ce que c'est, ça me transporte, quoi, voilà, j'adore ça, quoi. Vraiment.
C'est littéralement la toucher, quoi. Enfin, moi, par exemple, je travaille vraiment énormément à la souris.
Ouais.
Parce que je suis pas, tu vois, extrêmement doué en tant qu'instrumentiste, puis j'ai pris l'habitude. Mais du coup, je sens que ce rapport tactile à la musique, il est vraiment important pour beaucoup de gens d'avoir ce truc où genre t'es vraiment en contact avec ce truc-là. Et comme tu dis, comme t'as l'air de le dire, genre quitte à ce que ce soit même pas perceptible au final, tu vois, mais c'est vraiment le contact.
Exactement. Exactement.
Qui fait que tu t'y retrouves.
Et sur le live wax, quand t'accompagnes. Des artistes, alors tu l'as fait avec Zwinkels, tu l'as fait avec Dooms ou pas, je sais que t'apparais sur des morceaux avec lui, est-ce que t'es parti en tournée avec lui?
Non, pas en tournée, on a fait une date.
Ouais.
On a dû faire quelques dates parce qu'il y a eu des trucs à droite à gauche où je suis monté sur scène, faire des trucs qu'on a fait ensemble et puis où lui est monté sur scène avec moi. Sinon, j'ai fait avec Giorgio aussi.
Ouais, tu disais.
Ouais. Enfin, il y a plein d'autres, mais tu vois, après, c'était sur. J'étais invité sur un morceau, sur deux, sur trois, sur. Que ça crée l'accident à tel moment de leur concert. Enfin, tu vois. Mais oui, effectivement, ils invitent un rocker. Hein.
Est-ce que ces lives, tu les vis différemment que quand, par exemple, t'étais avec tu vois, Naosol et Wax tu vois, c'était pas. Enfin, est-ce que c'est un autre univers, tu vois, de concert? Est-ce que tu le sens qu'il y a des codes différents? Est-ce que justement, sciemment, t'apportes des codes différents? Parce que justement, comme tu le dis un peu, on t'invite pour ça. Enfin, tu vois, comment ça se passe?
Écoute, c'est vrai que le but, c'est d'inviter un rocker. Parce que dans l'inconscient collectif des gens, quand ils me voient monter sur scène avec la guitare et tout, ils ont envie tout de suite, les jeunes, qui ont moins connu le côté groupe de musique, parce que bon, les groupes de rock tournent moins qu'avant. Tout de suite, il y a des cercles qui se forment, les gens ils savent qu'ils vont commencer à se rentrer dedans, etc. Ça turn up tout de suite en fait. Ouais voilà. En fait, ça insuffle un truc, et moi j'adore. Moi je suis archi fan. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu sais que ça va être la guerre. Et c'est le meilleur moment, quoi. Enfin, tu vois, c'est
un truc que je trouve incroyable et qui est pas seulement dû à la dilution d'une certaine partie du rock dans le rap, parce qu'il y a vraiment il y a des pogos chez Vald, tu vois, genre Vald.
Bien sûr, attends.
Et ça, je trouve ça incroyable.
Chez l'homme pâle et tout.
Mais je trouve ça incroyable ça se soit réapproprié. Enfin, tu vois, que genre juste les pogos, pour moi, du rap que j'écoutais quand j'étais gamin, pour moi, c'était inenvisageable. Tu vois, un pogo dans un concert de rap, tu bouges la tête, c'est tout. Tu vois, tu lèves les bras clairement. En l'air. Tu vois, il n'y a pas de pogo. Et là, maintenant, c'est des mosh pits. Ils font des mosh pits des concerts de rap. C'est incroyable. C'est trop bien.
Moi, je te le dis, je vais être super honnête avec toi. J'ai fait la tournée que j'ai fait avec Giorgio. Je pense que j'ai vu plus de mosh pits et de Braveheart que avec les 5 groupes de métal que j'avais eu avant. Vraiment.
C'est stylé.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les concerts de métal auxquels je suis allé, de métal, j'entends. Hein. Je ne vais pas parler d'hardcore, etc. Ouais. Tu vois. J'avais l'impression d'être à un concert de rap des années 90. Les mecs sont comme ça, ils
bougent
ils pas trop à l'air. Ouais, et puis, ou des fois ils jugent, juste ils regardent comme ça, ils font les grands, tu vois.
Ouais.
Alors qu'un concert de rap aujourd'hui, c'est encore une fois, on en revient à notre discussion au tout début, c'est la musique des jeunes. Et en fait, moi quand j'étais jeune, je voulais me traîner, quoi, tu vois ce que je veux dire. Si je sortais d'un concert et que je m'étais pas traîné, Je sais pas que j'avais l'impression d'avoir dépensé mon argent n'importe comment, mais pour moi, c'était la fête foraine un peu, tu vois. Il fallait qu'il y ait de l'action, il fallait qu'à un moment, on me soulève, qu'à un moment, je soulève un autre, qu'on soit tous à gauche, à droite. Moi, je suis allé à des concerts des Red Hot dans les années 90, mon gars, mais c'était le feu, c'était n'importe quoi, tu vois. Les derniers concerts que je suis allé voir de Metallica, c'était pas un concert assis, mais pas loin, tu vois. Et alors que voilà, tu vois, tu vas à un concert de Dimé, de n'importe quel
Dimé,
rappeur.
Les Extreme Boys, incroyable.
Ouais, voilà, bah ouais, mais t'y vas, mais c'est la guérilla, tu vois. J'ai même pas besoin de monter sur scène avec ma guitare, que le public, ils sont déjà morts. Ouais. Nous, on a fait des concerts avec Bifty et le Patapouf Gang.
Ouais, ouais.
Mon gars, mais ça partait en civière, ce que je veux dire. Et tu vois, tu me disais à un moment, pour toi, c'est quoi le rock'n'roll? Pour moi, c'est ça, le rock'n'roll, vraiment, tu vois ce que je veux dire. C'est... Tu vois les mecs qui brûlent la scène, tu vois. Tu vois les basses qui explosent. Tu vois le public qui font des trucs dans tous les sens. C'est... Waouh. C'est quoi... Quelle est la meilleure définition? Tu sais, il y a un moment, il y a Gérard Bass dans un de ses morceaux des Early Winkles qui dit... du rap, du sang et du son. Mais qu'est-ce que t'attendais de... À quoi tu t'attendais à autre chose d'un bon concert de hard rock, tu vois? Ouais. Alors qu'il parle de Zwinkels, tu vois.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai, tu vois. Quand tu vois un truc comme ça, moi j'ai l'impression que de revivre le mouvement punk, en fait.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
c'est-à-dire,
ouais.
En fait, il n'y a pas de questions qui sont posées. Il y a 3 accords, on s'en bat les couilles, on envoie la sauce, les gens ils surréagissent et c'est génial. Et là, des fois, tu vois, franchement, il y a le sub qui part. La mélodie, c'est en 3 notes. Il y a 3 notes de piano, tu vois.
Ouais.
Et ça envoie des phrases qui se répètent, tu vois.
Ouais, ouais.
Et tout le monde jump. Et pour moi, c'est du punk. Enfin, c'est génial. Ouais. C'est... Ah, faut pas me parler de scène, après je deviens fou.
Ouais, mais c'est intéressant, cette histoire de la scène, parce que même... Tu vois, le rapport au live, j'ai l'impression qu'à travers tes émissions, alors évidemment, il y a Fanzine en ce moment, si vous connaissez pas Fanzine, je vous invite à regarder. C'est une très bonne émission où tu invites à chaque fois donc un artiste, vous faites des reprises ensemble, en plus, t'es dans le décor.
Ouais.
C'est ça. mais même ce que tu faisais dans le comité des reprises auparavant, il y a l'idée, alors en particulier Fanzine, parce que tu reçois quand même beaucoup de rappeurs dans Fanzine.
Ouais.
Et pas seulement, mais quand même beaucoup. Et j'ai l'impression que tu... Peut-être que je me trompe, peut-être que moi-même, je suis un peu dans le cliché, mais que... Tu les ramènes un peu à une culture, tu sais, du jeu en live, en groupe, à un moment de la répète un peu d'une certaine manière, qui ne leur est pas forcément naturelle, qui est un peu moins développée dans ces styles musicaux quand même, dans le rap en particulier. En tout cas, pas de cette manière, tu vois, qu'instrumentiste, on fait une reprise, on lance un jam presque, tu sais. C'est pas exactement la même chose. Il y a une culture du freestyle aussi dans le rap, mais qui, à mon avis, s'exerce de manière un peu différente. Est-ce qu'il y a un truc comme ça un peu... Je sais que t'as cette volonté de les sortir de leur zone de confort un peu, les artistes. Est-ce que ça rejoint un peu ce que je disais juste avant ou pas?
Alors, non. Je vais être super honnête avec toi.
Ouais, vas-y, oui.
Pour moi, c'est l'égalité des chances avant tout. C'est-à-dire que, ayant fait de la promo avec des groupes de folk, des groupes de rock, des gens de la variété, déjà, je dois avouer qu'en France, par rapport à l'espace médiatique qu'on a, on a assez peu de choses pour la culture. Et notamment la musique live. Et donc, si tu fais, tu sors un album et que tu fais de la chanson, de la musique plus globalement, tu vas être invité une chance sur 10 000 sur Taratata, qui font que plus qu'une ou deux émissions par mois, et encore pendant quelques années, ça n'y avait même plus. À la radio, tu vas faire des guitares chants, et la plupart du temps, si tu fais un guitare chant, on te demande de faire une cover en plus. Et au final, tu te retrouves à faire les trois mêmes trucs. À chaque fois que tu fais de la promo, c'est les trois mêmes endroits où il y a 3 endroits où tu peux faire de la musique en France, quoi, en gros. Après, bon, t'as plein de trucs associatifs, les radios campus, t'as plein de choses. Mais je te parle de médias dans lesquels tu peux exprimer de la musique et tu peux être vu et entendu.
T'as cliqué.
Et alors, quand c'est des rappeurs.
Ouais.
Ouais, mais alors, quand c'est des rappeurs, ben, il y a quoi? Il y a peut-être un truc, tu vois. Et encore. Et là, la dernière fois, j'ai regardé Taratata, il y avait Joker et Attic qui étaient invités, et on leur a parlé pendant un quart d'heure, 20 minutes, de « mais alors du coup, vous, ça vous fait quoi de chanter devant des gens ?» Enfin, on leur a parlé comme... Enfin, moi, j'ai pas aimé, je vous le dis honnêtement, j'ai pas aimé. Et en fait, moi, j'ai voulu créer Fanzine en me disant « comme As You Are, tout le monde peut venir. » Et au final, ceux qui répondent le plus à mes appels, et qui veulent le plus faire cet exercice-là, c'est des rappeurs. On me dit que j'invite trop de rappeurs, ça, on me le dit souvent dans les commentaires, etc. Mais gros, c'est eux qui viennent. C'est eux qui veulent venir. Moi, à la base, j'ai fait ça pour que n'importe qui puisse venir. Des meufs qu'on n'écoute pas, qu'on aime bien, mais voilà, tu vois, la marraine de l'émission, c'est quand même Chilla, tu vois. Ouais. Alors, elle a percé à la base sur un planète rap, elle a montré dans un milieu où en plus elle était entourée que de cum et tout, elle est toute seule dans la cage, elle s'est débattue et franchement, elle est incroyable cette meuf. Et moi, je voulais lui offrir ça, tu vois, j'étais là, je veux que ça soit la marraine, je veux montrer que. Après c'est pas une cage fanzine, c'est pas un endroit où je vais te mettre au défi de faire des trucs que tu sais pas faire ou je sais pas quoi, tu vois. Je vais pas t'emmener sur du rock alors que tu sais pas faire du rock, je vais pas. Le but c'est que justement il soit dans du coton et que les gens qui regardent se disent justement mais pourquoi en fait pourquoi j'aime bien. Et ben en fait moi j'ai la réponse, c'est parce que tout simplement avant tu les avais jamais vus faire ça. Alors que moi pour avoir fait plein de tournées avec des rappeurs et en avoir croisé plein, Vald par exemple, avec Giorgio, la tournée elle se croisait très souvent. Donc Vald on le voyait tout le temps, tu vois. Et ce que j'ai vu de mes propres yeux, mais c'est, je pouvais pas le communiquer aux gens. Il fallait que je leur montre des vidéos qui ont été prises avec des téléphones, etc. Mais c'est les rappeurs, c'est comme des rockers. Je veux dire, pour moi il y a aucune différence. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets une guitare, le mec il fait son texte, il déchire le truc, des fois ils font sortir une émotion d'ailleurs que tu trouves même pas s'il y avait du chant. Voilà, le but de fanzine c'est ça. C'est, en fait c'est même pas de les sortir de leur zone de confort. C'est au contraire de les réasseoir sur la zone dans laquelle en fait c'est les plus forts. C'est les plus forts en interprétation, c'est les plus forts en lyricalement aussi, c'est les plus forts... dans la générosité, tu vois. Honnêtement, je vais te dire, ça c'est un sujet dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, et ça se trouve on sera pas d'accord sur ce sujet là moi le rock il a pour moi le rock il a raté le numérique, il est complètement passé à côté. En fait les rockers on les a embourgeoisés, c'est à dire que c'était prolétaire à la base, et la crash barrière elle s'est éloignée tellement éloigné qu'à la fin, la dernière tournée des concerts de Led Zeppelin, la crash barrière, elle est à 200 mètres, gros. Ouais. Tu sais même pas si mosh pit ou pas, de toute façon, tu t'en fous, ils sont tellement loin. On a érigé le rock en état de grâce, comme si c'était un truc, tu sais, incroyable. Alors qu'à la même époque, les mecs qui faisaient du rap, ils vendaient leurs CD dans la rue. Donc, comment tu veux expliquer à des enfants du rock que eux, parce qu'après il y a tout le mythe de la rockstar, de machin, en plus il faut des instruments, ça coûte cher, tout est cher, faut machin, etc. Qu'il faut aller sur internet, faire des covers, faire des trucs, ça a été snobé. Le monde du rock a complètement snobé internet. Là où les Strokes, les machins, etc., ils faisaient rien sur internet, tous les rappeurs, Kanye West, etc., ils ont tous posté des vidéos sur internet. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà ce modèle-là, qui était dans leur culture, qui était qu'à la base, eux, c'est des débrouillards.
Ouais, voilà.
J'ai écouté un super podcast la dernière fois qui parlait de Bustaflex, et Bustaflex disait, mon premier CD, j'en ai fait imprimer 1000, que j'ai mis dans le coffre de ma voiture, et avec mon frère, on est allé les vendre dans toute la France. Dis-moi un groupe de rock qui a fait ça.
Oh, je pense que c'est fait... Il doit y avoir
peut-être à l'époque du punk, tu vois, à l'époque où c'était prolétaire. Tu vois ce que je veux dire? Eux, c'était leur lifestyle. Tu regardes tous les anciens à qui j'ai parlé, les Joey Star, les machins, ils m'ont tous raconté leur début. À chaque fois que je rencontre des rockers qui me racontent leur début, il y a quand même des moyens qui sont différents. Il y a quand même la voiture dans laquelle tu peux mettre la batterie, il y a quand même le machin. Eux, c'est carrément du train fraudé, caché dans des trucs, dans des machins. Tout ça pourquoi? Pour aller vendre 2-3 scuds, etc. Et à la fin, ces gens-là, tout ce que je te dis, c'est que ces gens-là, tu leur donnes l'ADSL, et ils ont plus à aller skyer au hall avec des scuds pour aller vendre des trucs. Ils peuvent te smimber directement chez toi. Et ben ces gens-là, ils ont pris internet et ils ont dit, bah, vas-y, on va s'en servir. Là où les rockers, ils ont fait, oh là là, nous, on va continuer à faire un album tous les 3 ans, à faire des previews, genre, on vous donne 20 secondes du premier titre du premier album, etc. Et cette éducation-là qui a été donnée par les rockers qui avaient de l'argent à l'époque et qui étaient signés en maison de disques, c'était un très mauvais signal donné aux jeunes. Moi, je suis d'accord. Parce que du coup, il y en a plein qui se sont éduqués là-dedans en disant, ouais, du coup, bah non, on va pas faire ça. Parce que, tu vois, comme on disait tout à l'heure, les Américains, on les regarde en modèle, machin. Ouais, non, mais t'as vu, j'ai pas envie d'être vulgaire, en fait. Ouais. Moi, j'ai pas envie de me travestir à faire des trucs, des guitares, des machins, des je sais pas quoi, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a qui se rattrapent, il y a des jeunes qui se rattrapent, qui, en fait, mais leur modèle, crois pas que c'est les rockers, leur modèle, c'est les rappeurs. C'est ouais, comme les Twitchers, etc. Les Twitchers, les gamers, écoute, leur modèle, c'est des rappeurs. Post Malone, c'était un gamer, tu vois.
Ouais. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça, avec quand même le, ouais, le bémol de, du fait qu'il y a des, one man band prog, il y a des Polyphia, il y a des gens qui sont dans la culture internet, etc., et qui font quand même du rock aujourd'hui. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a une influence massive des rappeurs et globalement de l'esprit de débrouillardise qui est inhérent à la culture rap. En fait, c'est Damso qui dit débrouillard à jamais. C'est Benjamin qui le disait aussi dans notre épisode. Elle parlait de ce truc-là. Ça fait partie des trucs. Genre, en fait, le hip-hop, c'est ça. C'était tu te démerdes. Tu te démerdes, c'est tout. Il n'y a pas de alors, oui, j'ai pas ci, j'ai pas ça.
Tu citais Polyphia.
Aussi, ouais.
Ouais, ouais. Tu citais Polyphia. Est-ce que Polyphia, à ton avis, sont plus dans leur méthode et dans, même dans le son de ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont plus influencés par Migos, Kanye West et j'ai envie de dire même comment il s'appelle celui qui avait fait Bengarang là
Skrillex,
est-ce qu'ils sont plus influencés par ces gens-là qui eux ont pris le pas de la modernité ou est-ce qu'ils sont plus influencés par les guitareros d'après toi? Je demande, ça se trouve on n'est pas d'accord.
Ah ben moi je pense que c'est un bon équilibre entre les deux et c'est ça qui fait que ça marche bien, tu vois.
Je pense que c'est assez moite-moite.
Parce que
je pense que
Tim Henson, il aime trop se branler que pour ne pas avoir bandé sur des Malmsteen, sur des, tu vois, genre des gros techniciens.
Ah non, mais
quoi,
attends.
Tu vois ce que
Ah oh là là. Attention, moi je parle de la méthode.
Du modèle industriel.
Du modèle.
Ouais, ouais. Pas de la musique, ouais, d'accord.
Ah oui, non, mais à ce moment-là, évidemment.
Moi je suis d'accord avec Michel sur la musique.
Non, alors à ce moment-là, évidemment qu'ils ne se sont pas inspirés de Metallica sur leur manière de faire la pop.
Ouais,
tu vois.
Mais ça, c'est une question aussi d'adéquation avec l'époque.
Oui, voilà.
C'est-à-dire que ce que tu reproches aux rockers, une forme d'embourgeoisement, je pense que déjà tout phénomène culturel à la base underground, souvent il connaît quand même ça. Oui, dis-moi.
Non, attention. Encore une fois, moi je te dis, j'en veux à la génération qui ont connu l'âge d'or des années 90 et qui n'ont pas, si tu veux, fait preuve de pédagogie avec les jeunes rockers en leur donnant des coups de main, en leur disant il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, et quand le numérique est arrivé, de l'embrasser, tu vois. Nous, on a plus l'image de Lars Ulrich et de Metallica qui attaquent Napster plutôt que. Et de rappeurs qui disent mais vas-y, téléchargez-moi gratuitement, ça me fait de la pub. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais
on a plus cette image-là.
Mais c'était pas leur culture, c'était pas la même génération. Ils connaissaient pas cet outil, ils savaient pas faire.
Je sais.
Tu peux pas. Enfin, on peut le reprocher entre guillemets, mais c'est aussi tout simplement qu'ils n'étaient pas en adéquation avec leur époque. Et c'est un phénomène naturel aussi quand les mecs, ils ont 40-50 piges, tu vois.
Ça, je suis complètement d'accord sur les 40-50 piges. Mais en fait, derrière, il y a eu des générations de gens qui n'étaient pas si jeunes que ça, qui étaient même plutôt âgés, et qui ont continué à montrer ce mépris-là énorme pour les cultures internet, digitales, etc., alors qu'ils ne réussissaient même pas à vendre d'albums. C'est-à-dire qu'ils continuaient à se dire « Ouais, mais c'est parce que le système, maintenant, c'est que des des Snapchat, des trucs, des soci... » À l'époque, il n'y avait pas Snapchat, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et qu'en gros, ils singeaient Internet pour dire, en gros, c'est un truc ridicule. Tout ça parce qu'il y avait énormément d'amertume. Tu vois ce que je veux dire.
Oui, et il faut dire aussi que l'émergence d'Internet au niveau musical, c'est pas ce qu'est la musique sur Internet aujourd'hui, et que ça a été quand même pour beaucoup de groupes ça les a déstabilisés complètement, notamment pour ceux qui étaient déjà installés économiquement, parce que ça foutait en l'air complètement leur modèle économique. Et donc effectivement ils ont cherché à lutter contre parce que ils ont pas envisagé une manière de se renouveler, ce qui a d'ailleurs été une catastrophe pour l'industrie musicale. Et là elle commence un peu à se relever parce qu'elle a enfin compris, oui, il faut peut-être s'adapter en fait plutôt que chouiner effectivement sur les nouveaux modèles qui émergent aujourd'hui.
Et ça, pour démoler un peu plus, il y a également plein de rappeurs qui ont loupé le coche du stream et tout ça, tu vois.
Mais évidemment,
Il y a plein de joueurs qui sont morts.
Et d'ailleurs, ce manque de cette passerelle, tu vois, des anciens vers les jeunes, certains le reprochent dans le rap aussi, en disant que, alors évidemment, il y a plein d'exemples inverses. Tu peux parler des mecs comme Zoxy, etc., qui toute leur vie ils l'ont dédié à mettre en avant d'autres types, etc. Ouais, ouais. Tu vois. Donc ça, évidemment, ça existe. Mais à l'inverse, il y a d'autres groupes aussi qui ont moins été capables. J'avais vu, tu sais, ce super documentaire. Je crois que c'est un documentaire de l'ABCDR du son, si je dis pas de bêtises, ou c'est Yard, je sais plus, sur un battle qui s'était organisé dans les années 2000 dans en région parisienne, je ne sais plus quelle banlieue de région parisienne. Absolument passionnant ce documentaire. Et les mecs qui avaient monté ça, putain, comment ça s'appelait ? Je mettrais peut-être en incrustation dans la vidéo un truc dans le genre parce qu'il est vraiment très cool à mater. Et en gros, c'était, ils avaient récupéré une scène, un bar, un peu concert de la ville. Et puis, parce qu'il y avait des mecs du quartier qui ont commencé à se chauffer, on se dit non mais attendez, il faut qu'on investisse ce lieu pour donner la chance à des petits jeunes de rapper, etc. Et c'est devenu une institution. Et c'est notamment ce qui a fait l'un des premiers gagnants, c'était Cynic. Et ce qui a, il avait déjà une petite carrière derrière, mais notamment ça l'a fait péter encore plus. Tu vois, et c'était un peu un symbole de ce battle qui avait
j'aimerais trop le voir. Tu m'as trop donné envie là.
C'était pas l'End of the Week, peut-être que je dis de la merde.
Non, c'est pas End of the Week, c'est bien avant justement. Ouais. C'est un peu les précurseurs de cette scène derrière, après, évidemment, avec les
World Up,
les Rap Contenders, etc. Ouais. Voilà, exactement. Et en gros, en fait, ce qui ressortait, c'est que ça a été une bulle de 2-3 années avant que les médias s'intéressent de plus en plus au truc, que ce soit repris, etc. Ouais. Et que ça perde un peu de son âme, en fait, très rapidement. Et les mecs qui avaient monté, qui étaient à l'origine de ça, qui étaient presque des travailleurs sociaux, en fait, qui étaient des mecs qui étaient là vraiment pour créer du lien dans leur quartier, tu vois. C'était vraiment ça, le but initial. C'était de réunir justement tous les quartiers qui parfois se faisaient la guerre entre eux de cette ville et se dire non, on va essayer de tous se retrouver autour de cet univers commun de rapper, etc. Vraiment génial comme truc. Mais ça termine sur une note un peu triste où ces mecs disaient on a peut-être loupé le coche, on a essayé de nous transmettre un truc et ça s'est perdu à un moment. La chaîne n'a pas fonctionné à un moment. Donc tout ça pour dire que dans le rap aussi, c'est confronté à des moments à ce manque comme ça, voilà, de transmission d'héritage, que ce soit d'un point de vue, des valeurs, pourquoi pas du business aussi. C'est-à-dire, comme tu le disais, bah, peut-être que des gens auraient pu dire « Hey, mon gars, t'es jeune, peut-être qu'il faut que tu t'adaptes à ça, à ce nouveau modèle, etc. J'essaie de te conseiller, de t'orienter. » Il y a des trucs qui se font comme ça. Mais c'est pas évident, en fait. Et je pense pas qu'on peut l'imputer qu'au rock. Tu vois,
non, du tout.
Et je pense qu'à l'inverse,
je le fais pas qu'au rock. C'est juste parce que le rock était numéro 1 à l'époque
C'est vrai. De toute façon, là, je pense qu'on est juste dans la discussion de chercher chacun à affiner un peu notre pensée. C'est pas reprocher à l'autre.
Non, c'est sûr.
Personne n'en veut. Il y avait clairement, tu vois.
Moi, je me rappelle en tout cas dans la cour de récré, comme tu disais, Salman, c'était. T'avais les rockers métalleux, etc. Et c'était des babtous avec des longs cheveux. Et puis, t'avais les descendants d'immigrés qui écoutaient du rap. Et au milieu, t'avais, nous, on appelait ça les Ronnie. Chez moi, c'était les types plus qui écoutaient... Enfin non, c'était pas les Ronnie d'ailleurs, mais enfin bref, c'était des gens qui écoutaient plus l'électro et tout ça, tu vois. Mais genre, t'avais quand même cette grosse opposition entre rock et rap. Et pour moi, la lutte des classes, elle commençait déjà là, tu vois. Parce qu'il y avait ce côté genre... Le rap, c'est pas de la vraie musique, tu vois. Genre parce que vous n'avez pas les skills, parce que pour être un vrai musicien, il faut du talent, parce que tout le monde peut parler dans un micro, parce que machin, parce que si, parce que là. Et il y a déjà un truc de vous ne savez pas, en fait, vous ne savez pas faire. Et les gens qui aiment ne sont pas cultivés. Tu vois, si t'étais cultivé, tu n'aimerais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y avait déjà ce truc-là, peut-être pas formulé de manière aussi trash et aussi claire. Mais dans la cour de récré, c'était déjà un peu ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on continue à faire la distinction maintenant, tu vois. C'est que ces deux philosophies qui sont relativement différentes. C'est genre, t'as l'expression de soi, hors de tout complexe, etc. Le rap, pour moi, c'est ça. C'est j'existe et niquez vos mères, tu vois. Et puis, dans le rock, t'avais plus une tradition, même en tout cas, moi, quand j'étais gamin, tu vois, de genre... Regardez, j'ai des skills, j'ai un savoir-faire, j'ai du beau matos, j'ai du machin, etc. Tu vois. Que...
Oui, et il faut pas tomber aussi dans l'excès inverse par rapport à ce que tu disais aussi, Wax, tout à l'heure. Je dis pas que tu disais ça, hein, mais l'idée que tous les rappeurs viennent vraiment de tout en bas, qu'ils se sont faits tous tout seuls, à la force... Non, c'est il y a aussi une industrie qui s'est organisée de plus en plus, qui viennent de milieux plus favorisés, etc. Et d'ailleurs, c'est une chance pour ce style musical, je pense, que d'avoir plein de profils sociaux, culturels, avec des envies musicales différentes, etc. Je pense que c'est bien. Mais voilà, il faut pas être non plus... idéalisé en disant le rap c'est que la débrouille. Non, il y a une part culturelle bien sûr,
non,
comme
non,
ça
non.
Mais c'est pas que ça.
Ouais,
quoi.
Non
c'est
bon,
non,
après
c'est pas mon discours. Mon discours c'est de dire que le rock et le rap viennent du même endroit, la rue. À la base ce sont deux mouvements prolétaires. Voilà. Et ce que je dis, c'est tout ce que je dis, c'est qu'il y en a un qui, à un moment donné, a été numéro un et n'a pas su se renouveler par embourgeoisement, et il y en a un deuxième qui, malgré l'embourgeoisement, a toujours su se renouveler. Et ça s'explique notamment par le fait qu'effectivement, c'était du côté du rock, de l'embourgeoisement blanc, c'est-à-dire des gens qui étaient issus d'un prolétariat, mais quand même de milieu blanc, pour la plupart, et que le jour où, quand t'es blanc et que tu deviens bourgeois, si je dois faire une analogie, tu vois, tu te retrouves avec d'autres blancs. Donc, tu fais partie de ce nouveau milieu, tu vois, de jeunes bourgeois, mais t'es avec d'anciens bourgeois qui eux-mêmes étaient blancs et qui, ça se trouve, font même pas du rock, etc. Mais il y a un truc. Alors que les rappeurs, à chaque fois qu'ils ont été numéro 1, ils ont été quand même mis de côté.
Ouais.
Et donc, ce qui crée une team qui est quand même plus soudée. Moi, je trouve que c'est quand même plus soudé le milieu du rap que le milieu du rock. Je trouve que le milieu du rock est moins soudé. Et
t'as
ça explique
des dictateurs
aussi peut-être
dans le milieu du rap. Mais ce que je trouverais intéressant, c'est de.
Bien sûr que t'as des dictateurs, mais c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des puristes. Ouais. Mais,
Mais t'as des gens qui sont pas des puristes, mais qui sont quand même. Enfin, Booba qui dit j'ai fait du game une dictature, tu vois. Genre, c'est quelqu'un. Qui lui n'est pas vraiment pour la. Enfin, il a une posture très ambiguë à ce niveau-là, tu vois. Genre, il dit frontalement, oui, je fais au calme pour donner de la chance, etc. Il faut qu'on s'unisse, etc. Mais en même temps, tu sens quand même qu'il y a un côté où si tu te rapproches un peu trop de lui, va falloir soit faire un pacte avec lui, soit que tu dégages, quoi.
Mais Booba, c'est l'anti-exemple de tout ce qu'on a cité depuis le début de l'émission, je crois. C'est vraiment, évidemment, c'est quelqu'un qui a une carrière incroyable, qui a un talent monstrueux, mais effectivement, il a pas cette fibre de faire la place aux autres, et quand quelqu'un débarque et pour une raison, des fois X ou Y, vraiment des raisons que j'arrive pas à percevoir ni à comprendre, il va prendre quelqu'un dans son... Et des fois, la plupart des gens, c'est même pas des mecs qui sont numéro 1 et qui lui ont pris une place. Hein. Je pense que c'est des histoires qui sont propres à lui, en fait. Ouais. Tu vois. Et je pense que lui, vraiment, c'est pas... je le mets pas dans les exemples de ce qu'on s'est dit tout à l'heure par rapport aux gens qui font du... qui sont justement philanthropes et qui veulent juste, tu sais, mettre en avant des gens comme ça, sans arrière-pensée, sans rien, etc.
Mais l'exemple est très business, Booba, il est quand même super intéressant parce que... Enfin, moi, je trouve que c'est un exemple qui est super intéressant.
C'est hyper intéressant,
parce que, il vient d'un truc, à la base, hyper débrouillard, machin, tu trouves le type du quartier qui a une MPC, etc., t'as tout ce truc-là. T'as quand même le côté je monte un média, je fais les autopsies, tu vois, pour donner de la force à des rappeurs, etc. Et en même temps, t'as vraiment le côté, en fait, si tu ne prêtes pas allégeance, je vais devoir te tuer, quoi, tu vois.
C'est un peu ce que j'allais dire, c'est qu'il est ambivalent, en fait.
Ouais, à fond.
Il est ambivalent, surtout.
Et je trouve ça super intéressant.
Mais c'est pas non plus le mec qui donne pas du tout de force. C'est juste qu'effectivement, c'est... Ouais, t'as raison, il y a un côté un peu comme ça, de genre, moi, faut pas me prendre la place non plus.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est genre, il veut être genre un bon roi, quoi, tu vois. Mais il veut rester le roi.
Fais ton truc, mais faut m'aimer, effectivement.
Oui, voilà. Mais là où je serais très curieux, c'est que justement, pour moi, le rap est déjà en train de s'embourgeoiser, tu vois. Genre, il reste quand même... Enfin, tu vois, on est qu'au début de ça, je pense. Parce que c'est encore très vivant. Mais pour moi, c'est le début de l'embourgeoisement. Et je serais très curieux de voir esthétiquement ce qui va ressortir... par la suite, quoi. Tu vois, quel sera le prochain rap?
Mais d'ailleurs, après peut-être.
Là on est déjà dans l'étape 2 pour moi. voire l'étape 3. Hein. C'est-à-dire que pour moi, le rap, il s'est embourgeoisé à partir de, je sais pas, 2007, à partir du moment où ils ont commencé à être numéro 1 tout le temps. Les rappeurs étaient numéro 1. Si c'était pas quelqu'un du rap directement, c'était un feat R&B avec un rappeur, etc. Ouais. Mais ça date pas quand même d'hier que 50 Cent est numéro 1. Pour moi, c'était les grands premiers, tu vois, c'est la génération de Dre. Ouais. Tous les gens que Dre a produit qui ont commencé à être montés en numéro 1 et depuis ils ont jamais rien lâché et ouais. Entre temps il y a personne qui les a détrônés.
Non mais ce que je voulais dire c'était plutôt une comment dire genre l'idée que au bout d'un moment en fait tout le monde en fait tellement parce que la place est du coup numéro 1 tu vois il y a quand je parle d'embourgeoisement je parle pas que de classe sociale je parle aussi de simplement le manque de se réinventer quoi tu vois ce que je veux dire se réinvente de moins en moins pour moi il y a ce côté là et j'ai l'impression que là on commence doucement à arriver parce que en fait ça se dilue tellement dans tellement d'autres styles que ça commence à devenir assez informe etc et du coup là on essaye de nous faire croire un peu que c'est la drill tu vois le nouveau truc et tout bon c'est de la trappe quoi enfin pour moi mais du coup
je suis d'accord avec ça
je suis curieux de voir Quelle sera la prochaine forme forte d'expression
de se renouveler, je suis
ouais voilà c'est ça parce que là ici je pense il y a plein de rappeurs aussi qui bon tout le monde le conçoit encore comme une forme d'art comme une manière de faire de l'argent évidemment tu vois mais je pense que beaucoup de rappeurs en ont marre du rap à l'heure actuelle tu vois.
Et d'autant plus, Michel, je réagis, et ça me permet aussi de rebondir sur un truc que tu avais dit, Wax, tout à l'heure, c'est que je crois que personne n'est à l'abri, effectivement, de se reposer un peu sur ses acquis, de péricliter petit à petit, en fait, tu vois, et tu parlais, par exemple, du fait que le rock, le fait que c'était entre blancs, ça échangeait les choses, etc. Je trouve que c'est à moitié vrai, dans le sens où être blanc comme être noir, en fait, c'est pas ta couleur de peau en réalité, hein, c'est une fonction sociale, c'est une catégorie, si on t'assigne un truc précis. Et dans l'histoire, par exemple, du rock, il y avait des blancs à la base, certes, mais qui étaient des Italiens, par exemple, je pense à des mecs comme Ronnie James Dio, Tony Iommi, etc., et qui, dans la société, avaient une place, ils étaient tout en bas, tu vois, on les traitait pas, c'était pas tout le monde est blanc, c'est bon, on se retrouve. Ce que je veux dire, tu vois, c'est que comment on désigne les gens, ça évolue avec le temps, etc. Aujourd'hui, ce sera plus une autre immigration qu'à une époque, certes, ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai du mal à différencier à ce point, tu vois, à dire que c'est polariser complètement le débat. Je pense que l'époque aussi a changé, etc. Et qu'on retrouve en fait plein de choses similaires dans tout ça. Et que le rap peut tomber aussi dans le même travers avec le temps, d'ailleurs.
Moi, je suis pas du tout d'accord. Mais après, ouais, c'est mon point de vue. Pour moi, ce que tu viens de faire avec Tommy Yomi ou James Dio, pour moi, c'est du Not All Men, tu vois. C'est-à-dire, tu sais, quand par exemple on dit les hommes violent les femmes, on dit voilà. Ah oui, mais non, pas tous les hommes, on dit not all men, tu vois ce que je veux dire? Et c'est en gros, c'est un peu comme dire ah non, mais moi, attends, pas tous, je suis pas raciste, j'ai un ami qui est noir, tu vois. C'est attention, il était italien.
Attendez, parce que là, attention, là on va partir vers complètement autre chose.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que évidemment que Tommy Yomi, Jeff Dio, etc. étaient italiens, mais avant tout, ils étaient blancs. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que à partir du moment où il y a eu l'embourgeoisement, bah, ils se sont retrouvés avec d'autres blancs, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Mais la différence,
c'est ça que je veux dire.
Oui, mais c'était pas du tout. Enfin, c'est pas dire juste ah non, mais il y a des rockers qui sont d'origine
italienne,
immigrés ou je ne sais quoi. C'était pas ça.
J'ai pensé que c'était ça.
Non, c'est un peu plus fin que ça. C'est de dire que ce que l'on qualifie de blanc, de noir, etc. ça ne s'arrête pas à la couleur de la peau. Mais c'est te dire que c'est une assignation sociale. On te catégorise.
Je suis d'accord.
L'exemple typique, c'est Obama. Obama, certains vont dire non, c'est pas un vrai noir. Certains vont dire c'est un blanc. C'est un noir. C'est complètement fou. On voit bien que ce qui se joue derrière, c'est pas tant la gueule que tu as, c'est ce que tu es censé représenter, ce à quoi on t'assigne. C'est-à-dire que tu as telle place dans la société, donc tu es censé aimer tel truc, faire tel truc, agir de telle façon, penser de telle façon, etc. C'est ça, fondamentalement, ce qu'il y a derrière les catégorisations blanc, noir, etc. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y avait des gens à l'époque qui avaient une couleur de peau blanche, qui n'étaient pas assignés, qu'on ne leur donnait pas une place inférieure, qui n'étaient pas considérés comme, tu vois, intégrés aux autres, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr. Voilà, en fait, le mépris de classe, en fait.
Exactement, et que certains pouvaient s'y heurter aussi dans le rock, et que je sais pas si aussi naturellement, tu vois, ça s'est retrouvé après, genre, ouais, bon, allez, finalement, on est tous blancs, c'est bon, etc. Non, parce qu'il y a aussi des gens qui sont discriminés terriblement, mais ça a changé avec le temps, effectivement. Et je pense qu'il peut y avoir une forme d'entre-soi qui peut se créer aussi dans le rap, d'une manière différente probablement, parce que l'époque est différente. Ouais. Mais que, voilà, c'est ce que je disais, on n'est pas à l'abri aussi de dérives. Ça s'arrête, malheureusement, c'est aussi la place que tu as dans la société, le pouvoir notamment économique que tu as, etc. Et il peut très vite se créer une petite caste, même si c'est des gens qui, à la base, n'ont pas tous la même gueule. Bref, voilà.
Ouais.
C'est un peu
de toute façon, je pense qu'on est, de toute façon, dans le fond, je pense qu'on est d'accord sur tout ce qu'on dit. Après, on nuance de manière certainement un peu différente, etc. Mais de toute façon, on est d'accord. Et puis, de toute manière, en dehors d'être d'accord, les résultats sont là. Tu vois ce que je veux dire, c'est on peut factuellement voir comment est l'industrie musicale aujourd'hui, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est de tenter de l'expliquer pour savoir ce que demain sera fait, en fait. Parce que je pense que c'est souvent en regardant le passé qu'on apprend à voir l'avenir. Tu vois, par exemple, c'était assez drôle. Moi, j'ai trouvé... Il y a eu une période qui était très street... au global, tu vois, dans le rock et dans le rap. Tu me diras d'ailleurs ce que t'en penses, Michel, mais on est passé de ça à au glam, tu vois. Bon, si je dois faire un retour dans les années 80, tu vois, il y a eu tu vois, Motley Crue et tout dans les années 80, le jean très serré, le on devient très fancy, et en gros j'ai l'impression qu'on est dans cette période là du rap,
de ouf, aujourd'hui. Avec les lots et tout.
Ouais. Exactement. Et je me demande si, à l'image du rock et de tout ce qui s'est passé, derrière, il y a eu une explosion et il y a eu le grunge. C'est-à-dire ouais. Viens, on s'en bat les couilles. Et le fait de s'en battre les couilles, ça va être un style, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire avoir des jeans troués, des t-shirts, des machins, etc.
Ouais.
Et même musicalement, il y avait un truc beaucoup plus candide qui revenait. Est-ce que justement, là, ça va être intéressant de voir si... Est-ce que c'est pas l'avenir ? Est-ce que c'est pas le prochain modèle ? Ça va être de faire ce retour-là à quelque chose de beaucoup plus simpliste, des chansons, en fait,
ouais.
Avec un habillage beaucoup plus candide. Tu vois ?
Ouais. Ben franchement, je serais très curieux de voir ça. Pour moi, on opère quand même un espèce de tournant dans le rap français avec, pour moi, l'avènement de Freeze comme et Alpha One qui va, je pense, suivre derrière, parce qu'on a eu UMLA qui a eu un gros succès critique et là il vient d'avoir son disque d'or récemment. Là, on revient, on va dire, à du rap pur, quoi. Tu vois, genre.
En tout cas, il y a ce pendant-là qui était un peu oublié qui revit, ouais.
Ouais, voilà. Après, d'accord. Là, on est quand même dans des trucs qui sont genre... Alpha One qui disait dans le dernier freestyle que j'ai entendu de lui, freestyle Corée du Nord, je reste fidèle à la doctrine, fuck le top stream, tu vois. Il y a un truc de la doctrine, tu vois. Il y a un truc du respect de l'héritage, de la culture du rap, justement, etc. Donc pour moi, là, on vit un sursaut du rap par opposition au rap qu'on peut appeler variété, mais enfin, tu vois, plus large, tu vois. Mais justement, je suis très curieux de voir, parce que là, du coup, on est sur des techniciens, on est sur des gens qui sont machins. Je serais très curieux de voir justement quand le balécouillisme va revenir à une forme plus pure, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je pense qu'il viendra des jeunes. Ouais, ceux qui apporteront
tout
la réponse.
Des jeunes.
Je pense aussi, ouais. Parce que Alpha One et Freeze Corleone, pour le coup, ils vont avoir la trentaine, etc.
Ouais.
Mais il va nous falloir conclure. Il nous reste 1 minute 30 dans le Zoom.
Bon, bah, les amis, je crois qu'on a fait. Un bon tour, on a discuté librement. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, ce que j'avais imaginé dans ma tête, mais on s'est laissé porter par Wax, par ses passions, par ce dont il avait envie de parler. Et finalement, on s'y retrouve tous, je pense, parce qu'on avait plein de choses à dire. Donc, je suis bien content de cette émission. Merci beaucoup, Wax, d'avoir participé, d'être
merci venu. À vous, hein. Merci à vous surtout.
Michel,
je pense que c'est important ce que vous faites.
Ouais, merci.
Bah, écoute, merci. Merci. On essaye en tout cas de faire des trucs intéressants, que ça passionne les musiciens, ceux qui s'intéressent à la musique de manière générale. Il y a toujours plein de choses à dire et enrichir les gens et s'enrichir nous-mêmes.
Mais c'est cool parce que justement, c'est pas lisse. On peut exprimer des choses et être en désaccord, mais tout en essayant d'aller chercher le point commun qu'on peut avoir sur des trucs, parce que voilà, et c'est cool parce qu'il y a assez peu d'endroits pour ça où on peut prendre le temps de le faire.
Et surtout, ça je tiens à le dire, bon, j'imagine qu'il n'y aura pas tant de gens que ça qui auront suivi jusqu'à ce moment de l'émission, là on est vraiment sur la fin, mais c'est important, c'est que la pensée c'est jamais figé, c'est-à-dire que là on affirme des choses, etc., mais en fait ça se développe une pensée.
Ouais, demain on change d'avis, hein. Moi demain
non,
je vais
pas
me lever.
Non, pas non plus, toi peut-être Michel, mais moi non.
Moi oui. Moi oui.
Mais en tout cas, c'est que... voilà, tout ça c'est dans la bienveillance, parce que si je pense, tu vois, que voilà, on exprime des points de vue, ça évolue, ça bouge, on apprend, etc. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir ce rapport par rapport au contenu sur internet. C'est trop souvent on oublie ça, c'est genre ouais il a dit ça, ouais tout de suite c'est ça réagit, etc. Non, ouais. Enfin on peut aussi, tu vois, juste discuter en
ouais
fait,
puis ça arrive de dire de la merde et d'avoir tort, et tu vois genre c'est
ouais et c'est pas grave tant que tu dis pas trop de conneries quand même, faut pas abuser, tu vois, y a des trucs
oui voilà. Ou alors juste que tu dis oui j'avais dit une connerie, désolé j'ai pas fait exprès quoi, enfin tu vois, je me dis
moi, il y a des trucs, même après excuse, il y a des trucs que des fois j'ai du mal à laisser.
Ah oh oui, mais après, il y a conneries et conneries, quoi. Faut pas être méchant, mais.
En tout cas, pour merci terminer, quand même, Wax, ouais, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant? Tu vois, si ceux qui nous regardent nous écoutent pour te découvrir, un truc qui te tient à cœur.
Globalement, fanzine. Honnêtement, fanzine, je pense que tout est dit dans fanzine. Et puis après, sur Instagram, en général, je fais des petites collaborations avec des gens. J'aime bien mettre en avant des gens et voilà.
Je sais pas comment tu fais, mais t'es plus qu'actif sur Insta. T'es tout le temps, tous les jours. Mais tu m'impressionnes. Je sais pas comment tu fais.
Mais tu sais que en fait, j'utilise juste des moments de, tu sais, les moments de vide dans la vie d'un musicien, ils sont énormes en fait. Tu vois, il y a toujours un moment où tu fais un export.
C'est pour ça que les gens ils croient que je passe ma vie sur Twitter et tout, tu vois, pareil.
Mais non. Mais ouais.
T'es là en train d'exporter, tu ne peux rien faire pendant 2 minutes. Ton PC il est comme ça en train de faire des trucs, tu peux rien faire donc d'office.
Exactement. Il y a des temps d'attente énormes de mix, de tu sais, voilà. Et en fait, le truc c'est que 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, etc. C'est du temps où je suis en fait dans le studio. Tu vois, je suis pas chez moi en train de rater quelque chose avec la femme de ma vie ou je sais pas, c'est non, il se passe littéralement rien. Donc ouais, effectivement, je suis sur Insta et je fais des sondages, je pose des questions aux gens, j'interagis avec eux, je rigole avec eux et ouais, ça mais au final, tu sais que j'ai pas là du tout l'impression que ça me prend du temps.
Ouais.
Mmh. Écoute, parfait, c'est
très
génial.
Naturel.
En tout cas, la chaîne de Wax sur YouTube, donc c'est Wax et c'est là-dessus que vous trouvez fanzine. Le Insta, j'imagine que c'est Wax aussi.
Wax aussi.
Parfait. Michel, toi, bon bah on connaît les classiques. Si, à la limite, il y a un peu de nouveauté quand même. Après,
Le Twitch Game. Je suis sur Twitch.
Raconte-nous sur quelle chaîne où c'est qu'on trouve
Chronomusique. Twitch.tv/Chronomusique, tout est Chronomusique, A-R-O-N-O, M-U-Z-I-K, les petits amis. Attends, je vais retrouver son blaze. Comment il s'appelle?
Ah, c'est notre ami sur Facebook.
Greg Perrault, il s'appelle. Greg Perrault, salut à toi, notre super fan. Il est archi fan. C'est grâce à des gens comme... En vrai, c'est grâce à des gens comme lui qui réagissent et tout, tu vois, qu'on a de la visibilité et tout ça.
Écoute, c'était quelqu'un qui n'était pas très content dans ses commentaires. Mais nous, on préfère, tu vois, lui envoyer du love.
Ah ben oui, mais il n'est pas content. Mais en vrai, moi, je suis content. Je te dis, moi personnellement, sur mes contenus à moi, j'ai pas assez de gens qui réagissent aussi, tu vois. Genre vénère et tout, tu vois. Mais c'est important. C'est important. Ça crée du débat, tu vois. Genre, merci à toi.
En tout cas, commentez. N'hésitez pas.
Commentez.
Comme règle, effectivement, faites-vous plaisir. Mais bon, restez correct quand même.
Ouais.
Mais voilà. S.O. Thoman aussi, évidemment, qui nous permet de faire cette émission. S.O. Gibson, qui nous a permis d'avoir Wax aussi. Et puis, bah, nous, on revient dans un mois, Michel.
Yes.
On n'a pas encore décidé du sujet, mais on en a plein de côtés.
Voilà.
On avait lancé aussi... plein d'invitations avec des gens pertinents, des gens intelligents, des gens sympas.
Des gens beaux.
Ça va être trop bien. Des gens beaux. Et d'ailleurs, il faut reconnaître quand même qu'on a eu certainement le plus BG. Wax.
Ah là,
tu vois, là c'est bon, le niveau, tu vois, a été monté. C'était celui qui avait l'image la plus dégueulasse, mais tant mieux, tu vois, ça rééquilibre un peu. Les choses, comme ça. Donc,
ouais,
c'est vrai
beaucoup,
qu'on a mis un standard. Ça va être un critère pour les prochains, il faut être BG.
Ouais, venez, si vous êtes pas BG, ça dégage. Allez,
c'est
les gars.
Vrai, évidemment.
Merci.
À dans un mois, tout le monde.
Merci
bye
à
bye
tous.
Merci Wax, merci Michel. Ciao. Ciao tout le monde, bye bye.
Ciao.